Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir, amis d'Enix, bonjour ou bonsoir. Et c'est avec toujours un réel plaisir qu'on se retrouve pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. On va d'abord dire bonjour à Willy. Bonjour à toi, Willy.
Salut les gars, salut la KNF.
Salut Will. Et évidemment, nous avons nos tauliers et le retour d'un des principaux tauliers, Abdoul. Bonjour à toi.
Oye, salut la fanbase.
Salut Abdoul. Et enfin, Joanie. Salut Joanie.
Oye, ça papaya. Salut, salut à tout le monde.
Les gars, on va parler Knicks, on va parler basket et on va faire déjà dans un premier temps le bilan. Effectivement, les Knicks sont actuellement à la 8e position de la conférence Est. Ça sort d'une tournée à l'Ouest et les Knicks ont un bilan de 9 victoires et 9 défaites. Et dans un premier temps, je vais évidemment faire un tour de table. Donc les gars, les Knicks, qu'est-ce que ça vous évoque cette 8e position au bout de 18 matchs? On va diriger Willy. Willy, qu'est-ce que t'en penses de ça?
Moi, je trouve que c'est pas mal. On en avait déjà parlé précédemment. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de décrocher. Et on est à 9-9, donc pour l'instant, tu vois, on a déjà 18 matchs, on va arriver gentiment à un quart de saison. Pour moi, ça me va. Alors évidemment, si on pouvait être un peu plus haut, ça serait cool. Mais je trouve qu'on est dans le bon wagon. On sort d'un road trip qui n'était pas facile. Surtout qu'on le démarrait après une claque à domicile contre OKC.
Oui, clairement.
Et road trip sur lequel, si je dis pas de conneries, on fait quoi? On fait 3-2. Et je m'y attendais pas du tout. Franchement, je te le dis avec franchise, après la grosse claque, on prend 145 points contre
aïe, aïe, aïe.
Les
Ah,
jeunes
ça
de Thunder chez toi, ça faisait mal. Et j'avais un peu
Alors,
peur.
on s'en rappelle, c'était un soir de viewing. Je peux dire que les gens ont noyé leur chagrin comme ils ont pu, mais il y avait du chagrin
Ouais,
quand même.
c'était assez violent. Donc, vu les équipes qu'on a rencontrées, c'était Jazz, Nuggets, Golden State, Suns, qui était aussi une viewing, et encore en OKC, où on s'est vengé. Et franchement, prendre
Voilà.
les Jazz qui ont pris beaucoup de grosses teams et qui sont très solides, contrairement à ce qui avait été annoncé, qui sont la bonne surprise de l'Ouest parce qu'ils ont longtemps été, enfin longtemps, ils sont dans les leaders de la conférence à l'opposé. Et Nuggets, on les a pris, je pense, d'un bon moment où Jokic est absent, donc ça c'est cool, on va pas s'en plaindre.
Oui, c'est
Et
vrai.
il faut aussi noter qu'on est deux fois en back-to-back sur ces 5 matchs, et qu'on prend le Jazz et le Nuggets en back-to-back, et qu'on prend, après avoir perdu contre les Suns, on rebondit et on gagne contre OKC là-bas. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt positif, je vois le verre à moitié plein de ce 9-9. Encore une fois, on est dans le bon wagon, il faut tenir, et va arriver des moments où je pense qu'il faudra prendre un peu plus de matchs pour gentiment commencer à monter, et pas être pile poil à 50%, mais aller chercher les 55 pour se placer un peu mieux. Mais pour moi, c'est plutôt positif.
Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Bah le verre à moitié plein, donc pour Willy. Alors après, je sais pas qui veut réagir là-dessus. Abdoul, toi, comment t'as senti un peu ce petit début de saison, ton sentiment, et puis cette fameuse tournée à l'Ouest dont on redoutait tous les résultats, quoi.
Ouais, moi, mon sentiment, en toute honnêteté, je suis mitigé. Je m'attendais à des meilleurs résultats. Surtout à domicile, tu vois. J'ai pas digéré les 145 fois encaissés.
Ouais, il y en a pas beaucoup qui l'ont digéré. Et j'ai vu que ton assiette était mal passée, hein, au hideout, hein, durant la viewing. Hein.
Ouais, je te parle même pas de la digestion après. Bon, bref. Ouais, non, je trouve qu'on peut faire vraiment mieux. On parlera tout à l'heure des joueurs en question, mais il y a pour moi un souci. Après, les résultats sont à la hauteur aussi de l'équipe. Hein. Ça manquait de stabilité. Il n'y avait pas vraiment d'organisation. On voit des joueurs sur lesquels on comptait finalement, ils sont pas plus dans le roster. On en reparlera aussi tout à l'heure. Mais bon, voilà. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé. Positif dans le sens où c'est quand même pas mal. On est quand même, je crois, en 8e ou 9e. Bon, je crois qu'on est 9e d'ailleurs. C'est quand même pas mauvais. Moi, j'en tire une satisfaction personnelle, c'est qu'on est devant les Nets.
Oui.
Ça me suffit. Ça me suffit
Et
pour
devant
dire que
les
j'ai fait un bon début de saison.
devant les Nets, devant les Heat, bon, voilà, il y a quand même deux, trois petits motifs de satisfaction quand même.
Voilà, c'est ça. Tu te dis quand même, voilà, tu peux quand même.
Les Bulls, les Bulls.
Les
Chicago,
Bulls aussi,
Chicago
ouais.
aussi.
Oui.
Ouais, il y a quelques équipes dans le rétro pour l'instant. Pour
Donc,
l'instant.
pour le moment, t'es mitigé, hein.
C'est pas encore suffisant pour se dire demain, on va viser les play-in, quoi. On peut tomber à n'importe
Non.
quel moment parce que l'équipe, elle est pas du tout, elle est pas à la hauteur de nos attentes. Moi, je préfère le dire clairement. Maintenant, honnêtement, on n'est pas venu pour jouer les play-in, quoi. On a, enfin, l'ambition des Knicks, c'est les play-offs, c'est peut-être passer deuxième tour minimum. On cherche pas les play-in. Les play-in, c'est encore un jeu de dés. Faut arrêter, quoi.
T'étais très, très ambitieux vis-à-vis de l'effectif, hein.
Non, mais attends, hey, quand tu regardes les équipes en face, sur le papier, on a quand même de quoi tenir, hein. Faut arrêter, hein.
Je suis confiant pour l'équipe, mais après, la conférence Est est quand même relativement dense aussi, et oui. Un play-off direct, ça veut dire top 6. Moi, je les projette pas du tout top 6, même avant le début de la saison. Encore moins maintenant.
Honnêtement, j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir sur un top 6. C'est une équipe qui est la même depuis quasiment 3 saisons, là. Il y a peut-être quelques petits changements, des ajustements, etc.
Ouais, mais... Il y en a un gros. Moi, j'en vois un gros quand même au poste 1 qui change beaucoup de choses, et on aura l'occasion de débriefer le cas de JB. Mais
pour moi, c'est la surprise.
C'est
la bonne surprise de cette saison, parce que je misais rien sur lui, hein. Mais on en reparlera tout à l'heure, vraiment.
mais en fait, très rapidement, hein, moi je suis en phase avec ce que vous avez dit là précédemment, là, tous les deux, les gars, mais en fait, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que les équipes qui sont derrière nous sont des équipes qui potentiellement peuvent remonter en puissance, et par voie de conséquence, je vois pas Miami rester derrière nous jusqu'à la fin de la saison, je vois pas Chicago rester derrière nous jusqu'à la fin de... voilà.
Ok, les gars, mais à contrario, il y a aussi Indiana qui va peut-être pas tenir, tu vois, il y a ça aussi à contrebalancer, c'est qu'au bout d'un moment, Indiana, est-ce que ça va pas lâcher des matchs, pas parce qu'ils vont tanker, hein, dans un premier temps. Je pense qu'ils veulent développer leurs joueurs, etc. Mais est-ce qu'ils sont vraiment assez solides pour tenir, comme là, actuellement, ils sont quatrième, je crois, un truc comme ça. Tu vois, il y a les, comme vous avez dit, les hits, genre de franchises qui vont remonter, ça, on le sait très bien, c'est solide. Et puis, t'en as d'autres aussi qui vont baisser, tu vois. Donc,
ouais, les Wizards aussi, on sait pas. Hein. Mais en fait, on sera à la lutte avec un paquet d'équipes. Chicago, moi, je sais pas, hein, je me vois plutôt à la lutte avec eux que les classer largement au-dessus des Knicks cette saison. Effectivement, toutes les saisons, il y a des bonnes et des moins bonnes surprises. L'année dernière, nous, c'était plutôt la moins bonne surprise. On a fait une grosse dégringolade. Mais voilà, moi, je pense... Et enfin, on avait fait sur l'épisode de rentrée quelques petites previews. On s'était projeté sur des bilans.
Oui.
Alors, chacun avait ses bilans et tout. Moi, je disais hein, 42, 44 victoires, 45 au mieux. Oh. Voilà, mais ça,
oui,
c'est quoi ?
Oui, t'avais dit 45 au mieux, ouais.
À peine un 50% de victoires. Et là, aujourd'hui, on est à 50%. On a pris les matchs qu'on devait prendre contre des adversaires. Oui. Entre guillemets plus faible. Il y a eu l'accident contre OKC.
Ou affaibli.
Mais en tout cas, c'est les matchs qu'on se doit de prendre quand ils se présentent. Nicolas Jokic, il n'est pas là. Bah ouais, ça change la donne vis-à-vis des Nuggets. Et tant mieux, il faut le prendre. L'occasion se présente. Ouais. Elle se présentera peut-être pas deux fois. Donc allons-y, quoi.
Bien sûr.
Et inversement, nous, quand il y a des absences, bah, certains en profitent. Et je pense typiquement que le match au Thunder, enfin, quand le premier match où on réceptionne le Thunder, où ça se finit mal, là, à 145 points, avec un petit Mitch Robinson dans la raquette pour dissuader un peu. Je dis pas que ça va être un game changer qui va tout révolutionner le jeu, mais au moins la raquette aurait été peut-être un peu moins porte ouverte de Saloon, et on aurait peut-être pris un peu moins de points. Donc voilà, des absences, des blessures, des Covid, des machins, il y en aura dans la saison. 82 matchs, c'est hyper long, c'est pour tout le monde. L'effectif des Knicks, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre, ça c'est certain. Il n'y a pas de garantie non plus vis-à-vis des qualités de jeu. On voit que la défense, c'est quand même compliqué. On a un jeu qui est vraiment beaucoup porté sur l'attaque. On veut jouer vite parfois. Et du coup, quand tu joues vite, bah, tu rends des ballons. Voilà. Et on parle même pas de la défense à 3 points. Et les Warriors s'en sont fait plaisir, hein, avec un petit 18 sur 50. Donc, effectivement, on a des lacunes. L'effectif n'a pas radicalement changé, même si il y a des joueurs qui prennent de l'expérience. Il y a des joueurs qui reviennent un peu revanchards ou qui essayent de se mettre dans un meilleur état d'esprit. Hashtag Julius Randle, même s'il y a toujours des absences, hein, clairement. Et puis il y a surtout le Jalen Brunson, quoi. Et Jalen Brunson, sur des fins de match où ça commence un petit peu à avoir les miquettes, où les joueurs sont pas forcément dans une très grande confiance, bah, il est là pour apporter quelques points, pour venir finir, pour être le closer dans certains matchs qui sont un peu serrés. Et franchement, moi je trouve que ça change beaucoup vis-à-vis des deux saisons passées où on filait le ballon dans les mains de Randle, et Randle, bah, c'est pas ce genre de gars qui est capable de fermer les matchs là où Brunson peut le faire. Donc, on n'est pas trop mal. Moi, j'attends vraiment les matchs contre Toronto, contre Chicago, contre
Wizards. Ouais.
Ça, ces matchs-là,
adversaire direct,
on va pouvoir un peu avoir une idée de, du niveau réel des Knicks. Parce que perdre contre les Warriors, perdre contre les Suns...
Ça paraît logique en extérieur, en road trip et tout, c'est voilà.
Je ne m'attendais pas, ça aurait été la surprise de les battre. Donc ouais, même perdre contre Boston, c'est pas une illogique, on va dire. C'est pas illogique, on préférait les battre. C'est dommage, par exemple, de perdre contre les Nets, là où ils étaient un peu affaiblis aussi, ils étaient dans le doute. Mais dans les faits, ils ont un talent qui est largement supérieur au plus grand des talents des Knicks. Donc voilà, il y a des défaites, moi, où je suis pas, je les trouve pas si honteuses. Perdre contre les OKC, ouais, là, c'est honteux, c'est un accident, c'est pas normal, et il y a eu réaction derrière. Mais autrement...
Le contexte, OKC, c'est aussi le contexte. Et quand 145 points au Madison,
ouais.
Tu peux perdre 100 à 99, c'est pas un problème, mais 145, c'est... Et tout le match.
Tu te dois de gagner contre une équipe comme ça, normalement. Tu te dois de gagner contre une équipe
normalement,
comme ça.
Normalement, oui, mais en plus, il y a la mauvaise manière. C'est ça qui était très dur à encaisser.
Et un match... et quand je dis c'est un match d'attaque, OK, on en prend 145, mais on en met 135. Donc la défense du Thunder, elle s'en est quand même pris 135 dans les dents aussi, c'est beaucoup. Le premier quart-temps, on fait un record, je crois, de franchise sur le nombre de points inscrits. Donc c'était vraiment un match très très curieux, très très atypique. On l'a vécu en viewing party et on sait ce que c'est du coup. Mais voilà, ça c'est des choses qui arrivent dans une saison. Forcément, ça sème le doute, mais pour autant, voilà, faut prendre un peu de recul. Et on a un bilan équilibré. Est-ce qu'on attendait les Knicks à 60-70% de victoire au début de saison? Non. Qu'on se retrouve à 50%, bon bah voilà, c'est là où on les attendait, pour moi.
Et justement, Joanie, donc pour prendre un peu de recul, on l'a évoqué un petit peu au début là, on a tous peut-être ce sentiment que Tom Thibodeau se cherche encore, cherche la formule. Il y a eu pas mal de rotations qui a été effectuée déjà au niveau du 5, au niveau des rotations également en elles-mêmes. Et forcément, le premier choix fort a été le fait d'évincer Evan Fournier du 5. Donc dans un premier temps, c'était un temps de jeu totalement réduit. On s'attendait tous à un poste de 6e homme qui a fait longtemps débat en début de saison. Je me souviens, lors d'une des podcasts, on s'était dit comment bien utiliser Evan Fournier, là où il serait peut-être le plus utile. Finalement, d'un poste de potentiel 6e homme, il glisse gentiment. Puis, ça enchaîne sur du DNP, messieurs. Donc, Evan Fournier au placard. Qu'est-ce que ça vous évoque? Tiens, j'aimerais bien avoir Abdou là, sur le sujet, là, sur Evan Fournier.
Quoi?
Ah bah oui.
Ouais,
parce que tu aimes bien Evan, parce que tu l'aimes bien.
Je suis un peu dubitatif là du choix de mettre Evan de côté. Ok, si on fait le bilan de la saison dernière, c'est pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Hein. C'est clair que Evan il était inconstant, c'est un joueur qui a un fort potentiel. Pour moi, hein, ça c'est vraiment un avis vraiment personnel.
Ouais, subjectif, pas. Tu tranches dans ton avis.
En sixième homme, moi je pense qu'il aurait vraiment fait le taf. Et à mon avis, il a senti qu'il n'avait pas la confiance du coach. Et depuis un moment, c'est pas vraiment dans ce début de saison qu'on l'a vu. Déjà, en fin de saison dernière, je crois qu'on en avait déjà discuté, on voyait bien que bon...
Il finissait pas les matchs.
Il commençait les matchs parce qu'il a été starter de tous ses matchs la saison dernière, mais il ne finissait pas tous. Il
les finissait c'est pas ça.
On sentait déjà que la tension commençait à s'installer. Hein. Pour moi, le coach devrait lui faire plus confiance. Il devrait être capable, Evan, de fournir un meilleur résultat. Pourquoi est-ce que les résultats sont pas à la hauteur de nos attentes? J'en sais rien. C'est dans sa tête, sûrement. Hein. C'est pas physique, parce que physiquement, il a l'air d'être en pleine forme. Techniquement, il c'est un bon joueur. Dans lequel il est. Il se plaît avec l'équipe. Donc, pourquoi ça marche pas? Je sais pas.
C'est un pro. Et il a une bonne attitude, ça, c'est certain. Et voilà.
Sur l'attitude, il y a rien à dire.
C'est irréprochable à ce niveau-là.
La sauce, elle devrait prendre, quoi. Maintenant...
Il y a de la concurrence.
Non, mais la concurrence, c'est le propre du jeu. Hein. Il faut de la concurrence. Oui. Toi, tu te réveilles derrière, tu te bouscules un petit peu. Bon, mais là, on lui laisse même pas le choix, quoi. C'est-à-dire qu'on lui laisse même pas une minute de jeu.
Ah bah parce que les rotations ont été raccourcies, ouais.
J'ai une petite question là qui me vient à l'esprit, là. Du coup, je vais te la poser, Will. N'est-il pas victime de la potentielle faiblesse en défense de Jalen Brunson pour pouvoir équilibrer à côté de lui? Est-ce que ce serait pas une piste d'attaque, ça, en fait? Est-ce que c'est la défense de Fournier qui serait ciblée par notre coach?
Alors, moi, je pense que c'est pas la passe D, elle est bien, Lolo, parce que c'est un peu mon opinion. Je vais pas tout mettre sur le dos d'Evan, parce que moi, je rejoins Abdul. Je pense qu'il a d'énormes qualités à nous apporter. C'est une question d'équilibre pour moi. Et alors, je vais pas parler que de Brunson, je vais parler de global. Sans revenir revenir, parce qu'on a déjà parlé de Kaisi, mais 145 points, ok, le jeu l'a changé, ok, c'est très offensif, mais c'est trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes line-up, tes 5 différents que tu vas passer dans tes cartons, il faut un équilibre. Un équilibre de défense intérieure, de défense extérieure. Si on met que des attaquants, ben on va en prendre souvent des 145 points et on va pas gagner souvent des matchs parce que ça va être dur d'en mettre 150. C'est pas des All-Star Games. Donc moi, je pense qu'il paye un peu le côté la franchise recherche. On a dit 9-9, donc il y a eu des passages où ça allait, d'autres un peu moins bien. Donc Thibodeau teste des rotations. On a le retour. Ouais. De notre petit Grims là qui on le sait est un gars qui se tape en défense et Thibodeau l'apprécie beaucoup d'ailleurs c'est pour ça qu'il a pas lâché en tout cas qu'il voulait pas apparemment le lâcher cet été dans les trades notamment sur celui de Mitchell et il est là et il est de retour et depuis qu'il est de retour on peut aussi reconnaître que son activité défensive est parlante on le voit clairement ouais. On le voit dans les matchs le gars il donne et de ce côté là donc Evan, pour moi, c'est pas forcément mort, même si...
Mort, hein. Vous savez qu'ils vont le trader. Hein.
Et ben, je pense qu'ils vont le trader. Étant franc,
on y va tout droit. Là, le message est clair. Hein.
On s'oriente vers un trade, malheureusement. Ouais, après,
c'est open au trade. Maintenant, voilà, dans quelles conditions, c'est là ça va se jouer. Mais là, clairement, c'est une porte de sortie qu'on lui a montrée. Hein.
Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est trop, en fait, des parties de titulaire à ça marche moyen à je te donne 0 minute. C'est
ouais, un truc que... Ça vous fait pas penser à un gars, en fait? La saison dernière, on a eu Kemba Walker, ouais. Hein, son collègue de backcourt, ils venaient ensemble. Alors après, Kemba, il y avait des problèmes de santé, hein. Il n'était pas dans le meilleur de sa forme. Là, Evan, même s'il a eu un euro peut-être un peu voilà, en pointillé, c'est pas un joueur qui est rincé, qui est cuit. Il a commencé starter, mais on l'a mis en seconde unit. Kemba, lui, il avait directement été mis en DNP, hein. Il n'y avait même pas de... c'est un joueur de banc.
Il n'y avait pas de transition,
pas envisagé, tu vois.
Mais c'était un peu plus tard, c'est plus vers Noël.
C'était un petit peu plus tard. Le coach, il commence à avoir chaud aux fesses. Parce que le dernier match d'Evan, c'est lequel? Bah, c'est le match contre OKC, justement. Et il a joué 20 minutes. Et nous, côté français, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a un regard un peu particulier, une affection pour Evan, forcément. Par contre, de l'autre côté, côté US, sa taille. Pourquoi est-ce qu'Evan, il était sur ce match pendant 20 minutes, machin, on s'en prend 145, il va apporter quoi? Et effectivement, ce match-là, il n'a pas été bon, faut le dire. 0 sur 5, il met pas un point en 20 minutes. Sa défense, bon voilà, mais même, voilà, on attend de lui du shoot, bah, il n'en a pas mis. Alors, il n'en a pas mis parce qu'il les a pas pris ou peu, parce qu'il n'a pas été servi, parce que finalement, dans la seconde unit, à côté d'un Quickley, à côté d'un Rose ou autre, il trouve pas non plus sa place dans cette rotation là.
Ou il la prend pas,
mais en tout cas voilà, c'est pas mieux exprimé en tout cas dans les quelques passages qu'on a pu voir de sa part dans la seconde unit. Et tout à l'heure Abdul, tu disais ouais, ça, on s'attendait à un rôle de sixième homme parce que bah, mine de rien il y a voilà, c'est un ancien starter, donc tu dis bon bah maintenant on le met sur le banc, mais il va sortir du banc assez vite parce qu'il y a un contrat, parce que nous on regarde Evan un peu avec un œil, une attention particulière forcément, mais les sixième hommes, ils étaient déjà identifiés parce que avant ces changements de rotation, qui sortait du banc en premier, bah, c'était Quickley et Hartenstein. C'était un arrière, un combo et un intérieur.
Joanie, c'est des gamins à côté.
Ouais, mais c'est des gamins justement qui montrent des choses, qui ont des contrats à aller chercher aussi, tu vois.
Mais ils ont des beaux potentiels. Mais théoriquement, la place du sixième homme. C'est un gars comme Evan que tu vas la donner parce que c'est un gars qui a de l'expérience. C'est un gars, tu sais que tu peux pas le faire jouer un match complet. Mais t'attends de lui, justement, quand il rentre sur le terrain, qu'il dynamise tout, quoi.
Et justement, le gars d'expérience qui est ressorti, c'était D-Rose. C'était D-Rose après. La rotation de sixième homme, c'était plus forcément Quickley, c'est plutôt D-Rose qui arrivait, quoi.
Ah ouais.
D-Rose qui a un petit peu grogné dans la presse, machin, qui cherche, on sait pas, il est dans les rumeurs aussi. Mais voilà, il y a cette concurrence. Et il faut le dire, en fait, on a beaucoup de joueurs sur les postes 1-2, là, qui aspirent à du temps de jeu, qui montrent et qui ont des qualités de jeu différentes. Certains sont plus offensifs, d'autres sont plus défensifs, d'autres allient un peu les deux. Et finalement, dans un début de match, enfin de saison où la défense, elle n'était pas au point. Oui, il a fallu faire des choix et c'est le premier sacrifié parce qu'on a sacrifié son apport au shoot par des joueurs à des profils plus défensifs dans le 5, donc Cam Reddish et Quentin Grimes. Donc,
plus, on va dire, taillé en termes de manipulation, etc.
Plus polyvalent, il peut switcher plus facilement différents profils parce qu'il est plus long, quoi. Ça, le physique, malheureusement, ça ne s'apprend pas. Et Jalen Brunson, il a beau faire ce qu'il veut, il mesure 1m85. Donc,
Cam Reddish répond quand même au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand il est rentré dans les rotations, on va dire, un peu plus longues, des séquences un peu plus élevées.
Il a saisi dit ses chances.
Ah, il a saisi son opportunité directement.
Il n'est pas blessé, c'est un joueur intéressant. C'est une certitude. Maintenant, il faut qu'il soit en santé, quoi. Et pour revenir, voilà. Juste un petit mot sur ce que tu disais, Johanny, et je vais revenir sur ce qu'il disait Abdoul, parce que je suis plus Team Abdoul sur le sujet de Fournier. Non, mais un truc qu'il ne faut pas oublier, les gars. Fournier, il arrive l'année dernière dans une équipe qui ne joue pas génial. Il tape le record de franchise à 3 points. Donc, c'est un mec.
Non, mais
il faut respecter quand même. Si tu le mets en position, qu'il shoot et qu'il a un rôle, moi, je rejoins Abdoul. Franchement, c'est un gars. Peut-être pas 6e homme, si tu veux 7e, 8e, peu importe, mais je rejoins Abdoul, encore une fois, une troisième fois. Je pense que c'est un gars qui est trentenaire et demain, on veut faire des playoffs. Bon, bah, il va y avoir des moments où faut pas trop.
On a besoin de ce genre de gars. On a besoin de ce genre de gars.
Et donc, du coup, Will, moi, je te pose la question. Est-ce que c'est pas faire preuve d'impatience de la part de Thibodeau? Est-ce qu'il a voulu taper dans la fourmilière et envoyer un message très rapidement pour essayer de pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière, ou vraiment, on va dire que la pseudo crise est arrivée relativement tôt dans la saison? Donc est-ce que c'est pas un panic move là de la part de Thibodeau?
Et Joanny qui l'a très bien dit, c'est que le prochain à sauter, ils vont pas sauter 15 joueurs d'un coup. Donc le prochain à sauter, si vraiment ça partait mal là, ce sera Thibodeau. C'est à peu près sûr. On a entendu beaucoup de choses cet été. T'as raison Lolo, c'est sûr. Et Joanny l'a dit tout à l'heure, hein, c'est sûr que lui il a un peu paniqué et ce qu'il veut c'est gagner tout de suite. De toute façon c'est un gars qui a pu gagner tout de suite maintenant. C'est pas quelqu'un qui va préparer le futur. Le futur, c'est maintenant, comme dit Orelsan. Et voilà, lui, il veut gagner maintenant, là, tout de suite.
Ouais, c'est pas si mauvais que ça. Parce que franchement,
je dis pas que c'est mauvais. Je dis pas que c'est mauvais.
Les approches avec, on va développer les jeunes et puis on se donne rendez-vous dans 5 ans. Ouais, d'accord. Mais bon, New York, on connaît New York et il y a une impatience, une envie de gagner aussi. Donc, avoir un coach envie de gagner, c'est pas déconnant, quoi.
Non, c'était pas dans ce sens-là. Ma critique, c'était dans le sens, pour revenir sur Evan, c'est qu'effectivement, si le blacklist et que ça marche, t'as très peu de chance qu'il revoie le terrain. Très peu.
Ouais. Bah après, les blessures, c'est les six ça qui vont faire qu'il y aura peut-être une porte qui va se réouvrir. Et encore, on l'a vu, là, il y a eu Cam qui était sur la touche. Evan n'est pas retrouvé de temps de jeu. Hein. Donc pour l'instant, non, effectivement, il est out of the rotation. Ça arrive, c'est déjà arrivé sous l'ère Thibodeau. Hein, c'est pas une première. Si on se rappelle, on y pense à la saison dernière avec Kemba Walker. La saison d'avant, c'était Austin Rivers. On a tendance à l'oublier, mais voilà, aussi une sorte de joueur, peut-être pas dans le profil d'Evan, mais quoique, on pouvait retrouver certaines similitudes. Moins fort,
j'ai tenté de dire. Ils ont pas les mêmes carrières quand même, faut respecter quand même Evan un minimum. Hein.
Non, mais
limite FP à Orlando avec...
Moi, j'ai rien contre Evan. Hein. Moi, je suis content de ce type de joueur. Après, ça me fait mal au cœur qu'il soit mis au placard aussi vite et comme ça. Malheureusement, on pouvait aussi un peu s'y attendre parce qu'il y avait des choix à faire. Il n'y a pas eu de trade cet été où ça aurait permis, entre guillemets, de nettoyer le roster aussi, quoi.
D'équilibrer un peu les rotations, les rôles, etc.
Ouais. Donc il y a des minutes pour tout le monde.
Mais de par la lourdeur de son contrat, en fait, c'est vraiment le message, il est fort, quoi. Je veux dire, c'est pour moi il est le visage de la réaction de Thibodeau, en fait. Ouais,
ouais. Pour moi, c'est une réaction qui est trop violente. Ce qui est intéressant, c'est que tu parles de son contrat et il faut en parler aussi un petit peu, je pense. C'est qu'il a signé du coup l'été dernier en tant que joueur phare quelque part. Il a signé, je crois que c'est à peu près en moyenne 18 millions l'année sur 4 années. Il attaque sa deuxième saison, c'est-à-dire qu'il lui reste encore une saison à 18 et encore deux derrière. Donc si demain tu veux l'envoyer quelque part, là ça commence à parler de si vous voulez l'envoyer, envoyez-nous un premier tour avec, quoi. Ouais. Et apparemment, les Knicks ne voudraient pas envoyer de tour de draft avec.
Non, il lâche rien.
Mais après, évidemment, c'est l'un des rares joueurs, entre guillemets, bankable. Je mets vraiment des guillemets là-dessus. C'est que si on a besoin de flexibilité pour pouvoir chercher du vrai trade, alors on est obligé de passer par le contrat de Fournier. Tu es obligé de le lire comme ça aussi. Et d'ailleurs, ça me fait d'ailleurs une petite transition. Pour le coup, en fait, on parlait de joueurs bankable. On peut également commencer à parler de Julius Randle. Moi, j'ai... Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais on va parler pour échanger avec pas mal de nos membres de l'Extraction France qu'on a croisé lors de la dernière viewing. Alors, on était vraiment atterrés par son attitude vis-à-vis du match des Saints.
Il faut que ça cesse.
Moi, j'ai envie de vous poser la question. Alors, je pense que vous êtes assez chaud sur le sujet, là.
Ma réponse est claire. Il faut que ça cesse. Julius Randle a assez fait le gamin. Maintenant, c'est suffit pour le dégager. Tu refous Fournier sur le terrain et tu dégages Julius Randle.
Ah ouais, on en est là.
Non, mais sans blaguer, Abdul, il y en a marre. Genre, je sais pas ce qu'il cherche. si jamais t'es pas content. Enfin, je veux dire, à un moment, tu dois te comporter aussi un peu plus dignement, quoi. T'es dans une équipe, il y a des choses qui te conviennent pas, tu t'exprimes, mais sur le terrain, tu performes. C'est-à-dire que tu te donnes, tu mets ton énergie, tu fais en sorte que tout le monde soit derrière toi parce que tu veux montrer que c'est toi le meilleur. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Sa défense, autant dire que, bon, le mec, il est plus que transparent. Il attend que les balles lui soient données parce que sinon, il ne fait rien. À un moment...
On est reparti dans l'iso à outrance aussi, tu vois. Quand je le vois balle en main, qui multiplie les dribbles.
Oh là là.
C'est une catastrophe.
Non, mais il a ces passages-là, mais faut pas qu'on soit non plus que dans la caricature. C'est pas un joueur défensif, ça le sera jamais. Ça, je veux dire, voilà quoi. Et il a des absences et il le fait pas tout le temps. Il le fait un peu plus cette saison. Il fait un peu plus cette saison quand même.
Il le fait quand même un peu trop.
Pour une saison où il est vraiment attendu au tournant, parce que l'année dernière, vraiment, l'image qu'il nous renvoie est juste catastrophique. Pour moi, il est dans un revival cette année, il doit montrer quelque chose. Il n'est plus le visage de la franchise, les gars. On est tous d'accord sur le sujet, quand même. Hein. Donc,
Mais je voyais que tu parlais tout à l'heure de son style de jeu et de pas rentrer dans la caricature, mais je suis pas amusé à faire le bilan des balles perdues, hein, ou des mauvaises passes et autres, mais des matchs que j'ai vus, c'est pour le joueur qu'il est censé représenter, c'est pas acceptable. Je suis désolé.
Non, mais c'est le joueur qui perd le plus de ballons d'Enix et c'est frustrant, agaçant, et c'est aussi pour ça que cette saison, Jalen Brunson, c'est un apport à différentes dimensions. Ça score et tout ça très bien, et ça doit enlever le ballon des mains de Randle.
Et que le jeu passe par
Randle et que ça s'arrête par Randle, c'est pas bon, c'est certain. Voilà, ça perd en mouvement, en fluidité, tout ça. Je suis d'accord. Hein. Voilà, je suis pas Julius Randle France, je sais pas quoi sur Twitter ou autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on lui tombe dessus en permanence à ce Julius Randle. Ouais. Et en fait, on sait, enfin, si, depuis la 3-4 saisons qu'il est Onyx. On sait quel bonhomme c'est, en fait. Qu'il ait ces moments d'absence en défense où il revient pas, ou alors le moment où il va râler au niveau des arbitres, nanana. Ouais, c'est agaçant, mais en fait, il va nous les faire régulièrement. Ça, c'est pas une surprise, en fait, c'est pas une nouveauté. Et après, en fait, le truc, c'est que nous, position de fans, c'est très bien. Faut pas oublier que c'est des humains, tu vois. Enfin, c'est des humains. Et quand toi, tu joues au basket, t'as du mal à faire de la défense tout terrain, mort de faim, et en même temps attaquer et que le ballon passe sur toi. Voilà, il y a un moment, tu gères aussi tes efforts. T'as des émotions et des joueurs qui râlent auprès des arbitres. Mais il y en a plein en NBA. Il y en a plein.
C'est même pas ça qui me dérange, en fait, Johanny, principalement.
Donc moi, je préfère avoir un joueur, même qui soit bougon, ronchon vis-à-vis des arbitres, mais qui a du caractère, plutôt que des joueurs soft qui s'effacent et qui.
Moi, c'est pas mon sujet. Moi, je pense.
Des joueurs, on va dire que avec du relief, même si il m'agace aussi. Il m'énerve aussi. Quand je le vois partir en dribble, je fais « Oh putain, ça va mal finir », et ça finit mal souvent. Donc oui, effectivement, il faut qu'il épure son jeu et il a des joueurs à côté pour l'aider pour ça. Mais voilà, après, si on en fait la cible à chaque fois numéro 1, les Knicks gagnent pas parce que Julius Randle, la saison va être longue encore.
Le truc, c'est que pour moi, vraiment, Randle, je trouve qu'il est très mal utilisé en attaque. Quand il est servi en rythme, et j'en parlais avec Daniel, que j'embrasse d'ailleurs, quand il est servi en rythme, il n'y a pas de sujet. Je veux dire, les shoots qu'il prend, même s'il n'a pas totalement une grande réussite, il n'y a rien de choquant. Il y a peu de tirs casse-croûte. C'est que quand vraiment on tombe dans le dribble à outrance, là, il multiplie les pertes de balles et les choix douteux.
Il y en a d'autres qui dribblent à outrance aussi, mais c'est pas par rapport à ses qualités.
Tu vois, moi, je pense qu'il doit pas être utilisé en début de système, cet homme-là. Et d'autant plus qu'en début de saison, quand la balle circulait, quand tout le monde mettait 15 points, il n'y avait aucun sujet sur l'Enix. On se régalait de regarder le début de saison de l'Enix, quoi.
Mais sur le match contre OKC, où il joue sur son physique et où il joue plutôt poste bas, il domine son adversaire en vis-à-vis. Et ben, il a été plutôt bon à ce moment-là. Alors après, oui, il y a des moments où il a des absences, machin. C'est gavant. Thibodeau le surprotège. c'est certain. Il devrait là, bah, justement, le match contre OKC qu'on avait vu en viewing, on s'en prend 145. Ah là là, il nous a laissé des séquelles celui-là. Il bench ouais. tout le monde, mais il bench pas Julius, quoi. Donc ça, c'est pas équitable vis-à-vis du reste de l'effectif. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est un joueur émotionnel. Je pense que voilà, Thibodeau et Randle, c'est un duo mine de rien. Ça a marché leur première saison, donc il a cette confiance. Il a des qualités, il a des défauts, mais on s'attarde toujours sur ses défauts en fait. Et oui, ça fait partie, ça impacte le jeu, mais voilà.
Il a quand même un statut. Il a quand même un statut. C'est ça en fait. Mais vas-y, je t'ai coupé. Excuse-moi. Mais
il a une production aussi en fait. Faut pas qu'on l'oublie quoi. Il a une production aussi qui est là quoi.
Oui, Will, qu'est-ce que tu voulais évoquer du coup?
Ouais, non, mais après je suis assez d'accord avec vous tous. Plus, cool. Non, mais je suis plus. En fait, je suis plus Abdoul et Lolo. Cependant, je suis d'accord aussi avec Joe, c'est qu'il faut pas non plus retirer ce qu'il a fait. Mais ce qui est gênant en réalité dans Randle, dans tout ça, c'est son attitude.
Exactement. Voilà.
C'est que tu peux pardonner à un mec qui soit un peu moins bon défensivement. Tu sais, t'as des mecs, je sais pas, c'est des cracks en attaque et genre Harden, ils vont rien faire en défense, tu vois. Après, c'est les attitudes. Oui, il y a être un peintre et vraiment t'en battre les couilles que le mec il fasse une coupe ligne de fond et genre regarder limite à ton pote, mais vas-y pour moi quoi. Tu vois, c'est les attitudes. Après, ça reste un super joueur, c'est pas un peintre, un random. Lolo, il parlait de rythme, etc. Et, par contre, c'est un finisseur. C'est que si tu t'attaques sur lui en début de système, ta possession de 24 secondes, s'il la touche à 22, la balle est pas. Hein. Il va shooter. Hein. Ouais. Tu vois, donc faut être malin. Faut l'utiliser de façon malin. Maintenant, on peut pas non plus le tuer parce que faut se rappeler, un, la saison qu'il nous fait quand il nous porte et qu'il nous emmène en playoff. Et il faut pas non plus dire que c'est un mec quand même, dans si tu regardes sa carrière, je pense qu'il est à peu près à 20-10, à peu près, sur sa carrière. Donc c'est pas. Un journeyman, quoi.
Un intérieur qui est à 20-10 et qui peut stretch, c'est intéressant quand même. C'est intéressant.
Bien sûr. Mais tu vois, j'appuie sur l'attitude qu'évoque Will là. Et on en parlait avec Abdoul. Mais le match contre les Suns, le nombre de rebonds offensifs concédés par l'adversaire, enfin, de notre part, en fait, il était monté jusqu'à 18 ou 19. Je ne sais plus combien on a fini de rebonds offensifs adverses. Mais ça cristallise l'attitude du joueur vis-à-vis du block-out. Juste ce geste-là, en fait.
Il fait passer box-out, il fait marcher dessus, il s'en fout, tu vois.
Il s'entartine dans l'attitude et ça, effectivement, c'est quelque chose. Alors, tu peux lui passer plein d'erreurs offensives, des pertes de balles ou quoi que ce soit, mais quand tu vois ça, c'est des gestes fondamentaux et de base. Bah là, c'est là où ça devient très inquiétant pour moi, en fait.
Et tu vois, le match d'après, il va en prendre 11 rebonds, tu vois. Donc, sur le match contre les Suns, moi, j'ai l'impression que l'équipe, elle avait choisi son match. Elle s'était dit, celui-là, on le prendra pas. Par contre, celui qu'on doit prendre, c'est celui qui suit en back-to-back à OKC.
Ça, c'est assez vrai.
Et j'ai pas l'impression que c'était la même attitude des joueurs dans la globalité, de Julius, entre autres. Donc, ouais, je sais pas, est-ce qu'ils ont choisi leur match? Est-ce qu'ils savaient que, de toute façon, c'était dur de rivaliser contre Phoenix, même avec des absences? Possible aussi, hein. Il y a un moment, c'est un road trip, c'est long.
Comme tu dis, Jo, des fois, faut faire des choix. Le Suns, c'est plus dur que OKC, quelque part, sur le papier. Puis en plus, OKC, t'as une revanche. Et en plus, t'es en back-to-back. Donc, du coup, effectivement, et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est derrière, on a OKC.
Il a joué un peu moins, tu vois, il joue 26 minutes, il en joue 33 sur OKC, donc il y a une sorte de choix de celui qu'il faut qu'on prenne, celui qu'il faut pas qu'on prenne. Et effectivement, quand t'as un match où tu te dis, bon, il y a peu de chances qu'on gagne, tu vas pas te mettre ta race pour te blesser, pour machin, et c'est ce que tu retrouves dans les comportements du joueur, quoi.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, et je reviens sur ton propos précédent, c'est que tu vois, dans ce cas-là, le match des Suns, s'il veut pas le faire prendre...
Kerr,
quand il y a un back-to-back et c'est 4 joueurs majeurs, il est fait bencher et ça sera un DNP pour les 4.
Non, mais bien sûr, dans ce cas-là, fait tourner ton effectif.
Et c'est en fait, là, c'est un peu ambigu. C'est quelque part, jusqu'à la mi-temps, il y avait réellement bagarre. Hein. Si on veut vraiment faire focus rapide sur les Suns, il y a bagarre jusqu'à la mi-temps.
Ouais, parce que les Suns, c'était pas en adresse, mais quand ils ont accéléré...
Quand on parlait d'absence de joueurs majeurs par rapport au calendrier du début de saison, on disait qu'on avait pris des matchs parce qu'on a bénéficié de certaines absences également. Là, c'était un match avec Chris Paul qui était absent. On se dit que potentiellement, et même Booker qui rentre pas très fort dans la rencontre non plus, on se dit qu'il y a quand même un coup à jouer, en fait. C'est un coup d'opportuniste.
Ouais, tu y croyais vraiment, vraiment? Moi, j'avais plutôt l'impression que les Suns étaient en maladresse et que quand ça allait rentrer dedans, on n'allait pas pouvoir suivre.
On n'avait pas le contrôle du match, mais on se dit qu'il y avait peut-être l'opportunité. Oui, mais le fait de rester en contact malgré déjà le travers des adversaires, on se dit qu'il y avait quand même une petite opportunité malgré tout, en fait.
Tant que t'es à portée,
tu vois, c'est juste pour moi, ma conviction, c'est que ce match-là, je ne pense pas qu'on a le privilège de le laisser tomber, en fait. Moi, je ne vois pas Thibodeau faire l'impasse et être dans le calcul d'épicier alors qu'on joue.
Bon, Thibodeau, c'est pas le profil.
Voilà. Enfin, moi, pour moi, je l'envisage pas. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop naïf, mais pour moi, je le voyais pas du tout comme ça. Hein. On n'était pas dans le calcul de on laisse le match. Hein.
Non. Bah non, parce que sinon on aurait pris 30 points rapidement et puis c'était plié, tu vois.
Et voilà.
T'as raison. Exactement. Non, je disais plus ça sur le planning. Quand tu vois tes 5 matchs, que tu arrives au calendrier, tu vois, s'il y en a un truc, entre guillemets, où tu lèves un peu le pied physiquement, hein, je parle. Hein, c'est que tu dis, quatrième à l'extérieur, celui qui est le plus facile entre les deux, ça sera celui d'Okaïsi, ici, dans l'idée, hein, sur le papier, encore une fois. Ce qu'on a bien vu. Hein, dans cette ligue, de toute façon, il faut avoir un truc en tête, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Voilà. C'est un truc, on connaît tous la NBA plus 20 à 30 ans. Des choses, on en a vu, on en reverra. Mmh. Voilà. Des fois, t'es surpris, t'en as. Mais après, je suis d'accord avec toi. C'est difficile de dire, ah, tiens, c'est les Suns, on va le lâcher à partir du moment où il y a un match à la mi-temps. Bah, tu vas essayer de le prendre.
T'essayes de l'accrocher. Mais après, malgré tout, hein, malgré ce marasme ambiant, il y a quand même quelques joueurs hein, qui nous maintiennent un flow dans les rencontres. Et évidemment, on peut pas aborder ce podcast sans parler de Jalen Brunson, les gars. Donc, Jalen Brunson, messieurs, si vous vouliez un nouveau visage, on va dire actuel pour la franchise, bah, je pense qu'il est prêt à endosser le costume en tout cas. Ouais. Il se cache pas, notre ami Jalen. Hein, donc,
si on veut racheter un jersey numéro 11, bah voilà, on sait qu'on peut le prendre. Il y a pas de souci. Hein. On a eu des bons numéro 11, on en a eu des moins bons, mais là celui-là, c'est un bon. Ouais. Non, très bon début de carrière Onyx. Hein. Le petit JB là, il est meilleur marqueur de la franchise. Pour le moment, tu vois, donc plus de 20 points, 6 passes par match, c'est pas mal quand même, c'est pas mal.
Alors, meilleur marqueur, et en plus, sans trop forcer, dans le sens où c'est pas le gars qui va tout de suite tirer le jeu vers lui. Par contre, c'est un closer, on en parlait tout à l'heure en début, je sais plus sur quel sujet là. Lui, c'est le genre de mec closer. Lui, tu peux lui donner les ballons et lui, il a envie d'aller fermer les matchs, de les plier, d'avoir les dernières possessions. Pour moi, le mot qui ressort sur lui, c'est patron. Hein. C'est clairement le patron de l'équipe. C'est le général, même si c'est pas un meneur forcément gestionnaire, parce que c'est plus le mec qui appuie sur l'accélérateur qu'autre chose. Et c'est une perceuse. Il va attaquer fort, tu vois, que ce soit dans le tir ou dans la pénétration.
Et puis quel culot, quel mental.
Le mec est burné, c'est clair que. Il se cache pas. Il sait pourquoi il est venu et il assume pleinement. Donc chapeau.
Ouais, il a pas peur de New York. Il a pas le gros contrat. Beaucoup ont dit machin, c'est trop.
Non.
Ouais, mais non. Vu ce qu'il apporte aujourd'hui, vu la production, vu comment il close les matchs. Pour moi, ouais, t'as dit c'est le patron. Effectivement, moi je le vois comme le baromètre de l'équipe. Il y a des matchs où des fois il passe un peu à côté, où il arrive pas avec son vis-à-vis, où il va être moins en réussite et tout, les shoots vont pas rentrer. Et ben généralement ces matchs-là, ça finit pas très bien. Mais autrement, il arrive à gérer. Ces phases où il va prendre le jeu à son compte, où il va apporter le scoring quand on en a besoin, où il va être un peu plus dans la distribution. Donc super super ajout quoi, super ajout. Alors ouais, c'est pas le meilleur des défenseurs, mais il fait les efforts, il prend des charges, il est teigneux. Moi j'adore. J'adore.
Ouais, Abdoul, tu disais.
Non, honnêtement, pour moi, c'est la big surprise de cette saison, cette début de saison. Je sais pas si j'en avais discuté avec Laurent Roux, je me rappelle plus, mais pour moi, c'était un non-événement, sa signature. Je me suis dit, bon.
C'est qui ce mec?
Franchement, Brunson.
Quand t'as des signatures à plusieurs chiffres à New York, ça fait évidemment l'objet d'analyses fines, on va dire, et voire de moqueries, tu vois. Je voulais pas passer le pas, tu vois.
Il y a des gars qui, bon, voilà quoi. Et je me suis dit, bon, putain, de tous les potentiels mecs qu'il y avait, c'est ce gars-là qui allait chercher. Pour te dire, on a commencé la saison, je me rappelais même pas de son nom. Pour te dire.
Oh.
Tellement dans ma tête, tellement c'était un non-événement quoi. Ouais. Mais après, l'argent gaspillé, tellement j'étais vénère. Et finalement, le mec, il m'a cloué le bec quoi. Et je pense qu'il a cloué le bec à un certain nombre d'entre nous.
Ah, je pense aussi, ouais.
Il est misé comme vrai potentiel pour cette équipe, les patrons des Knicks ont fait un excellent choix. Il y a rien à dire. Il est là, il est présent. Effectivement, c'est pas le meilleur des défenseurs, mais il court et il est présent.
Il est dans l'attitude, il est là. Il est là dans l'attitude. Il fait des minima.
Il secoue tout le monde.
Quoi. Ce qui pour moi détermine aussi le fait de bien scouter un joueur, parce que au-delà des statistiques, c'est la manière dont il va pouvoir rentrer dans la chimie de l'équipe. Bah, ce mec-là, il n'y a pas eu de match d'essai en fait. Tout de suite, ça a cliqué d'entrée de jeu, les gars. Donc ça, c'est vraiment appréciable en fait. Hein. On a senti tout de suite cette petite étincelle, et je pense que ça a donné aussi ce petit élan au bout début de saison des Knicks aussi. Hein. On disait que le fait que le ballon circule un peu plus, que le scoring soit beaucoup plus réparti, pour moi, ça faisait partie des satisfactions de ce début de saison aussi, hein, quelque part. Hein.
Ouais. Après, le problème que je vois là pour l'instant, c'est justement sa position de leader, et c'est peut-être ça aussi.
Elle est par défaut, je pense.
Parce que ses résultats à lui sont là. Et c'est ce qui joue, je pense, dans le comportement de Randle. Parce que Randle, pour lui, dans sa tête, c'est lui le patron.
Ah oui.
Et là, du coup, il se retrouve avec un gars qui déjà est plus présent, n'a pas l'air de discuter, et il va chercher réellement les résultats, quoi. Il se donne à fond à tous les niveaux. Combien de temps ça va durer, je sais pas. Hein. Si ça se trouve, au mois de décembre, le mec, il aura plus le jus. Hein. Là, aujourd'hui, sa position de leader, il est en train de la rogner. Et il la rogne à qui? Il la prend à Randle, quoi. Donc, le mec, il va falloir qu'il se réveille aussi de son côté. C'est soit je laisse ma place et je le laisse guider le bateau pour qu'on aille tous vers la victoire, ou alors je me bats pour essayer de récupérer ma position. Parce que là, pour l'instant, il la perd. Et il la perd, c'est
beau, quoi. Après, tant que les résultats vont suivre, je pense que voilà, ça ira quand même. C'est plus si on enchaîne des défaites et tout. Est-ce que voilà, il n'y aura pas les joueurs qui vont tirer la couverture les uns vers les autres. Mais effectivement, JB, c'est Jalen Brunson, c'est un très bon ajout. Ça enlève le ballon des mains de Randle et c'est tout ce qu'on voulait. Même si il a encore voilà les phases où il veut garder et où il perd ses ballons. Donc voilà.
Mais autrement, tu parlais très bien de la confiance de Thibodeau envers Randle tout à l'heure, Giovanni, mais il y a quand même encore quelques systèmes pour Randle, on est bien d'accord.
Oui, mais c'est pas, voilà, ça va pas du jour au lendemain, il va pas non plus être rétrogradé, parce que c'est un joueur important dans le système de Thibodeau avec ces Knicks-là aujourd'hui. Effectivement, par rapport à Evan Fournier qu'on évoquait tout à l'heure, Julius Randle, ça reste un des éléments clés, un des moteurs de cette équipe. Maintenant, il y a un deuxième moteur, il s'appelle Jalen Brunson, et mine de rien, on a quand même un trio qui tourne à 20, enfin, avec Barrett, dont on va parler juste après, 20 points pour Brunson, 20 points pour Randle et un Barrett à 18. Donc on a quand même un trio qui est assez productif en attaque. Les ballons passent vraiment par ces trois-là. Donc c'est quand même assez équilibré, quoi. Donc voilà, tant que ça va nous faire gagner des matchs, tant qu'on va être à peu près à l'équilibre, tant qu'on va être encore dans cette course, dans ce bon wagon pour essayer d'espérer une place en play-in, une place en play-off, je pense que ça satisfera tout le monde. Mais s'il y a une mauvaise série, s'il y a une mauvaise passe, si on enchaîne 4, 5, 7 défaites, s'il commence à avoir des blessures, ouais, attention à voir comment le collectif va rester soudé vis-à-vis de ces leaders-là, quoi. Vis-à-vis
évidemment, alors après, justement, ça va être un peu pour moi le revers de la médaille, c'est que Jalen Brunson vienne faire ses matchs, ils sont impactants pour l'équipe, mais c'est quelque chose qui était le plus important, je pense, pour cette équipe. Ça fait tellement d'années autour d'un meneur de jeu puisse être vraiment à un niveau, on va dire, compétitif, voilà, sans parler de degré d'exigence. Mais après, il ne faut pas que ça devienne non plus une bataille de statut. Donc, qu'il soit leader technique sur le terrain, je pense qu'il en fallait autour de Randle. Ça, on était tous d'accord là-dessus. On en a fait tellement des bandes et des bandes sur le sujet. Mais voilà, sans vraiment parler de franchise player, qu'il reste déjà dans ce rôle-là, pour moi, est le plus important. Voilà.
L'appellation de franchise player, moi, ça m'irrisse les poils à chaque fois qu'on en parle. Parce que
mais
aujourd'hui, mon avis, moi, c'est qu'il n'y a pas de franchise player au Knicks, quoi. Il y a des joueurs forts aujourd'hui, hein, peut-être que demain il y en aura, on verra. Ou peut-être que demain il y a un joueur qui va se révéler, avoir les épaules, le charisme et la production pour le devenir. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, quoi. Et on veut toujours coller une étiquette de c'est un tel quel franchise. Eh ben non, pas forcément, quoi. Enfin, voilà,
Mais après, dans un vestiaire, il ne faut jamais sous-estimer le fait que les joueurs ont besoin de connaître leur rôle.
T'as des leaders de vestiaire et les rotations sont, et la hiérarchie, je pense qu'elle est assez claire. Mais, mais aujourd'hui, voilà, s'il y a un franchise player, c'est qui, Onyx ? Est-ce qu'avant, c'était réellement Julius Randle ? Non, il c'était le leader parce que, voilà, par défaut, mais, ou par la stat, par la production, par les systèmes qui passaient vers lui. Aujourd'hui, est-ce que c'est Brunson ? Est-ce que c'est Randle ? Est-ce que c'est Barrett, le franchise player ? Est-ce que voilà, il y en a un qui tire le groupe vers le haut, c'est plutôt équilibré que quelqu'un qui est réellement au-dessus des autres, quoi, à mon sens.
Et après, c'est bien aussi, ça fait un monstre à trois têtes, entre guillemets, dans le sens où, si t'as un soir où on a un qui est un peu moins bien, t'as dit qu'on allait en parler tout à l'heure de Barrett, où il y a eu des soirs moins bien, d'avoir Brunson et Randle en plus, tu vois.
Ouais. Ouais, puis même en termes de défense. En termes de défense, c'est plus compliqué à défendre que quand t'attends juste un mec en face.
Complètement.
Justement, là, on fait la transition parce qu'on tourne autour du pot, là, tous les trois, là, tous les quatre, depuis tout à l'heure, là, les gars. Effectivement, attendez, au bout d'un moment, faut mettre les pieds dans le plat. Donc, écoutez, on s'est tous dit en début de saison, quand on a regardé l'effectif, on a débattu sur qui pourrait cette saison vraiment porter cette équipe, n'ayant pas connaissance de la production de Jalen Brunson. Bien évidemment, tous les propos se sont tournés vers RJ Barrett. Barrett, pour nous, c'était le gars que pick 3 qui devait vraiment représenter cette équipe des Knicks, qui devait prendre le lead. Il était dans une dynamique de progression.
Ça devait être son heure, quoi. Ça devait être son heure.
On l'attendait au tournant. Et pourquoi je parle au passé ? C'est qu'on est, je ne sais pas si vous partagez la même vision que moi, mais cette saison, il souffle le chaud, le froid, mais beaucoup de froid, et notamment derrière la 3 points. Il a totalement congelé.
Qu'un Canadien souffle froid, bon.
Donc, messieurs, on parlait de la valse du statut, de l'emprise qu'a pris, enfin, de l'importance du moins qu'a pris Jalen Brunson dans cet effectif-là. Quid de RJ Barrett, les gars?
C'est la troisième option aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est la troisième option. Non, Joanny, dis pas ça.
Autant on a parlé de Randle qui pouvait agacer autre, aujourd'hui, moi, celui qui me déçoit, c'est RJ.
J'ai pas voulu discuter quand tu as du Randle bashing, mais honnêtement, moi, je reste un fervent supporter de Barrett depuis la première heure. Et la troisième option, non. Parce que oui, il foire à trois points. Il a six, je sais pas pourquoi, mais c'est pas à trois points à la base, et il est capable de bien shooter, mais c'est pas un shooter à trois points.
C'est pas un shooter
au sens large.
il met des shoots quand même. Mais là, honnêtement, il fait des tentatives.
Mais quelques-uns, mais c'est pas sa qualité
il
première.
Il fait des tentatives qu'il ne devrait pas faire. Il fait des tentatives de shooter, de mec qui pointe, alors que ce n'est pas un. Ça, c'est un problème. Je sais pas pourquoi il joue comme ça aussi. Je sais pas. Peut-être qu'on le fait travailler à l'entraînement et qu'on lui dit maintenant, joue un peu plus en extérieur. Donc il tente.
Bah, d'autant plus que t'as Fournier qui est rayé de l'équation. Il faut ce mec qui puisse être une menace dans le corner, en fait.
Il faut le remplacer, ce Fournier. Donc, du coup, on donne ce rôle à Barrett. Barrett, lui, il va le travailler, le truc. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Il y a beaucoup d'énervement quand on le voit jouer parce que, bon, on comprend pas trop le style de jeu. Ses stats sont quand même assez corrects, quoi. Il reste quand même, en moyenne, à plus de 18-20 points. Donc,
après, les doutes, les doutes viennent du fait que, OK, il va faire des stats, mais les stats qu'il fait impactent-ils vraiment sens du jeu? Est-ce que ça va créer une bascule dans le match, en fait, tu vois?
Parce que l'équipe, quand tu regardes maintenant aujourd'hui, ça s'est quand même équilibré. On avait, jusqu'à la saison dernière, on comptait que sur deux gars. On comptait que sur Randle et que sur lui. Aujourd'hui, il y a ce phénomène Brunson qui est rentré dans la danse. Donc maintenant, on a trois bonhommes.
Oui, forcément. Donc,
À trois, moi je trouve que c'est équilibré, c'est pas mal. Maintenant, il faut faire tourner le truc autour d'eux, mais pour moi, à trois, là, je trouve que c'est bien. Les résultats qu'ils donnent et les stats qu'ils fournissent tous les trois, c'est propre, quoi.
Alors, c'est pas une question que de stats, parce que ça serait trop facile, et puis c'est quoi? C'est mon Clark qui disait, le basket, c'est pas un tableau Excel. C'est pas qu'une question de stats. Oui, ces stats sont un peu en retrait.
Que tu vas lui reprocher à Barrett, c'est pas les stats.
Développe, Joanny. Je suis là pour mettre un peu de l'ordre là-dedans. Joanny, dis-moi tout.
Pas de souci, t'inquiète. Non, non, mais après, voilà, moi, je suis pas un hater. J'ai pas abandonné l'idée que Barrett, il est encore jeune, qu'il a encore moyen de progresser, que voilà, c'est un bon joueur, un talent, et que c'est un bosseur et tout. Ça, là-dessus, non, moi, je suis pas partisan de full trade tout de suite, clairement pas. Ça m'aurait fait chier d'ailleurs qu'il parte cet été contre Donovan Mitchell, même si, voilà, à un moment, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Mais aujourd'hui, faut juste réaliser qu'on attendait plus de RJ. Il finit la saison à 20 points la saison dernière, il termine plutôt individuellement en boulet de canon, là où Randall, lui, c'était un flop. Et donc on s'attendait à ce qu'il reparte sur les mêmes bases. Et en fait, malheureusement, il repart sur les bases qui nous a déjà servi les trois saisons d'avant, à savoir un début de saison un petit peu timide, pas forcément réussite. Et oui, c'est pas un shooter naturel, c'est pas sa qualité première. Il en prend parce qu'aujourd'hui, la NBA moderne, faut shooter, et voilà, il va pas forcément en prendre plus que d'habitude, mais il va en prendre, c'est juste qu'ils vont pas rentrer, dommage. Là où il a du mal à avoir sa production, c'est sur la finition sur drive, où bah, ses shoots qui rentraient la saison dernière, ils rentrent plus, quoi. Donc voilà, ça cogite, et pour l'instant, bah, le match de référence de Barrett, c'est contre les Detroit Pistons, où il nous met 30 points. Bon, bah, ça fait un peu léger, quoi, sur ce début de saison. Donc voilà, il y a la production, mais pas forcément l'impact, et c'est pas que parce que, oui, il faut équilibrer avec Brunson et Randle quand ils sont dans le starting five. Forcément, il n'y a qu'un ballon pour tout le monde. Mais même quand ils se retrouvent, on va dire, dans la seconde unit, avec des Quickley, avec des D-Rose, avec des Jericho Sims ou compagnie, bah, il n'est pas plus le patron de cette seconde unit à être l'option numéro 1 à ce moment-là. Quoi. Et c'est ça qui m'embête, qui me dérange.
Mais tu sais, il y a un truc là, tu as mis le doigt sur des propos moi, qui me font écho. Tu dis, il cogite. Pour moi, tout est là. En fait, je pense que, et ça rejoint en fait, aussi ce que tu disais un petit peu, Abdoul, dans les choix de ses tirs. Il est très à l'aise sur son drive. C'est quelque chose qui la sécure en deux saisons et pour moi c'est comme ça.
Envie de développer son shoot, c'est normal.
Et je trouve que dans ses choix de tir, il cogite énormément. Et quand tu perds en plus cette réussite, ça te travaille d'autant plus en fait. Et je pense que ce gars-là, ça vient de la tête. C'est vraiment. Alors,
il faut qu'on s'enlève de la tête que c'est pas un meneur. Hein. C'est pas un meneur naturel. Hein. C'est pas un leadership. C'est pas un gars. Non mais c'est vrai.
Quand tu parles de meneur, tu parles de meneur d'homme. On est bien d'accord.
Je parle de meneur d'homme. Je parle pas de meneur joueur.
Ah oui. Voilà. Non mais c'est important. C'est important de préciser.
C'est un leader. Ouais. C'est pour ça que j'insiste. Je parle de leadership.
Ouais.
C'est pas un joueur sur lequel on va miser justement pour guider une équipe. On l'a espéré, mais clairement, dans son jeu, dans son attitude, il n'est pas là pour ça. Il ne sait pas faire. Lui, ce n'est pas son truc. Il est capable de bien jouer, il est capable de donner, d'avoir un vrai impact sur le jeu, mais lui, pour lui, il n'est pas là pour être le meneur. Il a laissé cette place. Ça fait longtemps qu'il a laissé cette place aux autres. Donc, il faut qu'on arrête de lui demander ça. Il faut qu'on arrête d'exiger, de l'attendre sur ce terrain-là. Clairement, on va être frustré.
Du coup, ça m'évoque une question. Est-ce que Barrett serait pour le coup un leader par défaut?
Non, c'est
Will, j'ai envie de te poser la question, Will.
Alors moi je pense comme Abdoul, pour le coup je suis assez ok que
Abdoul.
Non, je suis d'accord avec plein de vos propos, mais après c'est difficile de rebondir quand quelqu'un se lance. Je préfère laisser étayer son propos, mais c'est clairement pas un leader. Pour ça je comprenais pas quand il parlait de meneur, parce que meneur de jeu, non, c'est pas un meneur de jeu, c'est pas un point de garde.
Oui.
Mais c'est vrai qu'en termes de leadership, regarde, Jamorant, c'est un leadership. Il arrive, c'est sa franchise.
Exactement.
Et Gigi devant, c'est un leader dans l'attitude, dans le jeu, dans tout ce que tu veux. Le mec, il drive sa franchise. C'est lui, la franchise. OK ? Tout à l'heure, Johanny disait, on n'a pas de franchise player. C'est vrai. Actuellement, on ne peut pas dire que si tu veux en sortir un, tu vas peut-être sortir Randle, Brunson ou peut-être Barrett. Mais on n'a pas un réel leader, comme je viens de citer, qui se met au-dessus de la mêlée. Personne n'est capable de dire... C'est Brunson. Non, c'est
il est dans la mêlée, quoi.
Voilà, pour moi, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Je pense que ce mec-là, je lui souhaite mieux hein, que ça, mais je pense que ça va être un très bon lieutenant. Le terme que des fois les gens aiment plus utiliser, etc. Tu vois, ça va être le gars qui sera fiable, qui sera complet, sur qui tu vas compter. Le shoot, c'est pas grave, il est très jeune. Le shoot, Jason Kidd, il mettait des lay-ups à la fin de carrière. Le mec, il tournait à 40% à 3 points. Ça va venir, le tir. c'est pas grave. Après, je suis comme Joe, tu vois, il n'y a pas que Abdou, donc je suis. Je vous écoute, hein, attentivement, les gars. Je suis comme Joe, je suis content de l'avoir gardé quand même, tu vois. Il y a un bon prix. Je trouve que le prix qu'on lui signe cet été, c'est un bon rapport qualité-prix.
Ouais, je pense que tout le monde est gagnant dans ce trade-là, tu vois.
Exactement.
Intimement donc, convaincu.
Dans ce contrat-là, en tout cas, dans ce deal-là, moi, je suis content de l'avoir gardé. Je suis assez patient, je jette pas tout de barrette. Évidemment, j'aimerais, comme dit Joe, je peux le joindre. Hein. On aimerait qu'il soit un peu plus punchy et un peu plus dans l'attitude, pas l'attitude comme Randle, on parlait de l'attitude négative dans le body language, mais plus dans l'attitude du jeu. C'est, tu vois, des fois être un peu plus, bah voilà, c'est ma quatrième année, je suis un troisième choix de draft, c'est ça commence à être ma franchise, tu vois. Plus ça, qu'il s'efface un peu moins en fait. Mais sinon, moi, Barrett, pour moi, je ne suis pas...
Non, soyons patients encore avec lui. Ouais, c'est sûr qu'on attend le meilleur début de saison.
Bronson arrive, mine de rien. Bronson arrive, c'est quand même ça fait du tapage. Ça fait du tapage. Et lui, ça reste un garde. Donc, quand Bronson a la balle, lui, il ne l'a pas. Tu vois maintenant, dans l'attaque de cercle, c'est quand même son côté où je pense qu'il peut devenir vraiment élite. Il est quand même tanké, Barrett, quand il attaque le cercle. Ouais. Il est gaucher, c'est chiant. Donc, dans l'attaque de cercle... C'est bien. Après, il faut peut-être développer effectivement autre chose et ça va sans passer par le tir. Tout ce qui va être mid-range, ça se prend plus trop, donc ça va être le 3 points. C'est pour ça aussi qu'il prend plus de 3 points qu'avant dans le jeu. Hein. Mais ça, c'est le jeu, c'est la ligue qui veut ça. Donc du coup, ça suit. Je suis pas trop inquiet pour Barrett. Je pense que ça va suivre son cours et il va revenir. Il aura ses moments un peu plus forts et on sera tous contents. Il aura peut-être des moments un peu plus faibles. Faut garder en tête, hein, c'est un jeune joueur. Hein. C'est 23 ans, 24 ans.
Après, oui, c'est ça. Et après, j'ai le sentiment aussi que Thibodeau continue à le protéger quand il sent que...
Il l'a benché l'autre fois, mais il fait confiance aussi. Parce qu'il était soi-disant malade, il le fait jouer encore. Donc, il n'y a pas de côté, je vais te punir, tu vas aller sur le banc. Non, il compte sur lui aussi, et c'est un des bons joueurs, c'est le troisième meilleur scoreur de l'équipe. Donc, c'est qu'il est là tout de même. Il n'est pas là au niveau qu'on aurait espéré, mais bon, c'est compliqué d'avoir trois joueurs à 25 points aussi par match. Quoi, donc voilà, mais il s'efface un peu trop par moment, c'est ça qui est dommage. Il sait où il est. Ça reviendra. Il a passé une période où ça rentrait plus et ça devenait problématique et je pense que ça cogitait. Là, sur le dernier match, qu'on prend à OKC, au contraire, il a tout rentré au début. Donc, ça l'a bien mis en confiance. Et voilà, donc ça, il faut capitaliser là-dessus. Donc non, c'est pas un joueur qu'il faut dégager du jour au lendemain. Par contre, voilà, il faut qu'il se fasse violence par moment pour, prendre le jeu à les clés du jeu en main. Entre autres, quand il joue avec les joueurs de la seconde unit, quoi. Ça doit être lui le leader à ce moment-là. Quand t'es dans le starting five avec du Bronson et du Randle à côté, ok, on répartit un peu. Par contre, quand t'es avec les petits jeunes du banc, vas-y, quoi, montre que c'est toi le patron, quoi, à ce moment-là. Montre que c'est toi.
Ouais, je suis assez d'accord.
Un truc que je peux le reconnaître, c'est qu'il s'est tapé quand même souvent, depuis le départ, il y a 2 ans, de Bullock. Il s'est quand même souvent tapé l'année dernière les meilleurs attaquants extérieurs. Ouais. Que ce soit arrière ou ailier, et sur ça, il a quand même bien progressé. Quand on voit le Barrett qui est arrivé, aujourd'hui, comment il tank et quand il s'encaisse des gros ailiers, tu vois, sur ce côté-là du terrain, et on ne souligne pas, mais il fait les efforts.
Côté défensif, on n'a pas grand-chose à lui reprocher.
Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est bien que tu puisses évoquer cette semaine-là, parce que c'est vrai qu'on a parlé énormément de ses pannes en attaque, mais c'est vrai que défensivement, il a quand même, il pose pas mal de soucis à ses adversaires directs, et c'est pas pour rien qu'on le mettait aussi sur le meilleur scoreur extérieur des équipes rencontré, quoi. Donc, c'était bien de mettre ça en avant aussi. Hein. Je suis assez d'accord. Hein.
Parce que défensivement, il fait pas. Hein.
Le petit bulletin de notes, on va dire, peut mieux faire, même si, c'est déjà bien.
Moi, je dirais pas que...
Si, il peut mieux faire. Il peut mieux.
Non.
Tu verras. En fin de saison, il aura fait mieux. Il a démarré doucement, mais il a bien fini.
En tout cas, messieurs, 18 matchs, on a déjà, on se pose pas mal de questions, nous, sur la rotation, on se pose pas mal de questions sur notre 5, parce que finalement, on a peut-être 3, voire 4 postes de loquet, pas plus. La seconde unit, les alchimies, ne prennent pas nécessairement les certitudes qu'on avait il y a peut-être une saison, voire 2 saisons, avec un casting qui n'a pas été non plus chamboulé. Être à 18 matchs avec un coach qui entame, sa troisième saison, début de troisième saison, les gars, moi, je suis obligé de vous poser la question, est-ce que Thibodeau est toujours 1, l'homme de la situation, et 2, Va-t-il passer l'hiver et au-delà? On s'est déjà posé la question la dernière fois. J'aimerais bien avoir votre avis suite à ce début de saison, les gars.
Je sais pas quoi dire. Bon, honnêtement, pareil, hein, j'ai beaucoup de confiance. Enfin, j'ai beaucoup d'espoir envers le jeu de Thibodeau et sa stratégie. Avec ce que je vois dans le roster et la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain, je me dis quand même qu'il y a peut-être des choses à revoir. Lui, il est suffisamment intelligent, il a suffisamment d'expérience pour repositionner chacun et surtout booster ceux qui doivent booster pour justement, on parlait de leadership, les mettre en position leader. Toutefois, c'est une équipe de basket, donc il faut des résultats. Il y a des ambitions. On parlait tout à l'heure des play-in. Moi, j'étais beaucoup plus ambitieux et je pense que honnêtement, le staff des Knicks est beaucoup plus ambitieux que les play-in. Donc lui, s'il saute, c'est parce que potentiellement, il assure pas au-delà, quoi. Et ça, ça va pas plaire. Honnêtement, là, aujourd'hui, à trois années dans l'équipe, ça va pas plaire. Si tu assures pas au-delà des play-in, les play-in, ça veut dire vraiment que t'es pas capable d'aller au-delà parce que t'arrives aux play-in, ça, après, c'est un coup de poker, quoi. Si t'assures pas ça, on va encore rester chou blanc. Donc là, pour l'instant, il est, à mon avis, hein, il est sur la sellette. Il est sur la sellette parce que ton jeu n'assure pas au-delà des play-in. Et là, je pense pas que le staff des Knicks va se suffire de ça, quoi. Ça, c'est pas assez. Pas au bout de 3 ans, c'est pas assez. Il faut qu'il donne mieux, qu'il gère mieux son équipe, qu'il fasse jouer, qu'il doit faire jouer. Mais il faut que les résultats arrivent et qu'ils arrivent vite, quoi. Défensivement, t'es censé être le coach de défense. On doit jamais se prendre plus de 100 points.
Les 145 qui nous ont traumatisés, quoi.
Il n'y a pas que cela, Joe. Ça arrive souvent, on se prend 120, 130 points.
C'est voir le ratio défensif chuter comme des gens de soleil, comme des jeux de soleil au bout de saison, quoi. Je veux dire.
En fait, aujourd'hui, on est une équipe moyenne dans le bilan, moyenne en attaque, moyenne en défense vis-à-vis de la ligue, en fait.
Et ouais,
donc, du coup, on est moyen, quoi. Bah,
tu l'as bien dit, Joanny, en étant moyen à tous les niveaux, tu peux pas espérer aller loin.
Il faut une identité, soit une identité offensive, mais. Bof, j'y crois pas trop parce que lui, c'est. C'est pas son jeu. Et la problématique, tu vois, c'est que limite, je vais vous dire un truc, moi, les gars, c'est mon ressenti. Pour le coup, je posais d'Abdoul, j'ai pas trop foi en Thibodeau. Je respecte Thibodeau, j'ai foi en lui s'il a ce qu'il faut pour travailler. Ce qu'il faut pour travailler, c'est des Bullocks. Il a pas de Bullocks. Là, il a limite, c'est un mec.
Bah, il a Quentin Grimes, il a un Cam Reddish qui peuvent essayer d'apporter de la défense, mais du coup, ça, c'est pas beaucoup dans l'effectif, quoi.
Je déroule, j'y viens. Pour moi, Thibs, c'est le mec un peu à l'ancienne qui tourne avec 6-7 joueurs, des vrais joueurs, comme à l'époque des Bulls où il a ses 6-7 joueurs. Voilà, c'est bien. Là, il a Brunson, Barrett, Cooklet, Grimes, Fournier, McBride, Rose et Reddish sur les extérieurs. C'est trop pour lui. Son cerveau, il boue, tu vois, il regarde son banc, il est perdu. Avant, il donnait 35 minutes à tout le monde et c'était plié, tu vois. Là, c'est pas méchant, c'est mon constat. Après, peut-être que je me trompe, mais avant, il avait
un patron.
C'est pas un coup d'attaque. Il donnait la balle à Rose et il disait Rose, attaque. Ça, c'était l'époque Bulls. Aujourd'hui, il regarde, il fait bon, il y a Brunson qui est très bon, mais c'est pas non plus dit Rose. On va pas se cacher. Tu vois, c'est pas un gars.
Tu vois, oui, là, tu me tends la perche parce que du coup, est-ce que. Tout à l'heure, Joanny évoquait le fait que D-Rose s'épanche au niveau des médias sur son... Enfin, il se pose beaucoup de questions, oui, sur son rôle actuel. Et de fait, de voir ça aussitôt dans la saison, pour quelqu'un qui est vraiment est lié à Thibodeau, hein, de par son parcours, ça t'envoie des petites alertes, quoi. Je veux dire, il y a les antennes qui frétillent quand tu commences à avoir des trucs comme ça qui sortent, en fait.
Pour moi, pour continuer dans le sens de ce que je te disais à 30 secondes, c'est que ça va dans le côté... je ne suis pas un coach d'attaque, il faut que je me repose... est très bon. Le quelqu'un qui est très bon dans les 8 que je viens de te citer, bah c'est Brunson. Donc c'est lui que je vais mettre en avant. Rose, je l'aime beaucoup. On a fait une énorme carrière et un énorme bout de chemin ensemble. Pour autant, il y a l'âge et les blessures. Donc au bout d'un
moment,
ça. Et est-ce que je mets mon pote parce que c'est mon cœur et je le fais passer devant Quickley, Grimes, etc. Ou est-ce qu'il y a la réalité aussi de 2022 et on est en plus en 2015 et tu vois, tout a changé.
Ouais, c'est en ça où des fois on dit beaucoup Thibodeau il fait pas d'ajustement, nanana. Ouais. On peut critiquer ses rotations, mais c'est compliqué déjà de donner du temps de jeu à tout le monde. C'est un coach qui a comment dire, des rotations courtes. Et est-ce que c'est si mauvais que ça? Je sais pas. Après, ça use les joueurs, ça tire sur la couenne et voilà, c'est sûr. Mais en même temps, tu donnes du jeu consistant, t'arrives à avoir des joueurs qui sont en rythme. Et là où on a parlé tout à l'heure d'Evan, il disait qu'il avait du mal à sortir du banc ou à avoir peu de minutes, c'est difficile d'être productif sur un laps de temps court.
C'est des rôles à encaisser, hein. Tu le fais pas comme ça, on a quatre coins de doigts.
Il y a des joueurs qui savent le faire et d'autres qui ont plus de mal. C'est bon, voilà, ça arrive, c'est pas forcément une tare de dire ça comme ça. Mais du coup, effectivement, D-Rose, il y a une réalité. Il y avait peut-être une ambition de remontrer qu'il était revenu à un niveau de forme, de santé et tout, mais il est plus tout seul, malheureusement. Et est-ce qu'on privilégie des jeunes? Est-ce qu'on privilégie un D-Rose?
Et tu disais tout à l'heure, il y a un bon temps de ça, mais ça pousse derrière les jeunes. Des mecs comme Franklin, ils ont faim, ils ont envie de prendre des minutes, ils ont envie de signer des contrats, ils ont envie de montrer des choses, tu vois. Et un mec comme Kukley est beaucoup plus sur la pente ascendante qu'un mec comme D-Rose, qui n'a pas joué quasiment de l'année dernière, qui arrive, qu'on doit relancer. Tu vois, c'est difficile.
Même s'il est capable de flash, de moments, de bons moments. Hein, c'est sûr. Et Kukley, au contrario, il passe à travers parfois. Donc, faut arriver à jouer sur les forces du moment, quoi.
Et tu vois, pour revenir sur un détail qui aurait peut-être été salutaire cet été, c'est que si on fait le trade de Mitchell, on résout pas mal de petits problèmes, à savoir, ton FP, tu l'as. Il n'y a pas de débat. Hein. Il y en a qui ont débattu, j'ai vu sur les trucs et tout. Et moi, je disais des trucs qui m'ont rendu dingo. Et je ne suis pas un grand fan de Mitchell. Mais quand je disais des choses, je disais, les frérots, on parle d'un gars qui vous a collé des 40 points en play-off.
D'accord.
Sur 7 matchs. C'est pas une fois, j'ai 40 points et après j'en mets 5. Donc, tu vois, et aujourd'hui, on le voit. Hein, c'est qui le FP des Cavs? C'est lui. Et pourtant, il y a déjà, comme il s'appelle, le mec, le meneur qui est bon, là, Garland. Et il y a les intérieurs avec les tours jumelles, là. Donc, il arrive, il est patron direct et il met ses 30 points tous les soirs, sans problème.
Et il fait des passes.
Et il met des Thomas.
Même si le bilan des Cavs commence à prendre un petit peu de plomb dans l'aile. Hein, donc, mais ceci dit, t'as tout à fait raison. Mais après, tu vois, oui, c'est quand tu évoquais le non-transfert de Mitch, là aussi, on n'avait peut-être pas la vision des difficultés que pouvaient rencontrer certains mecs qui étaient évoqués dans le package, en fait, aussi. Hein.
Bah, moi, ce que j'avais déjà parlé avec toi, c'est que tout à l'heure, il le disait, je sais plus, c'est quoi ton expression avec le vinaigre, voilà, la mouche et le vinaigre, mais. Au bout d'un moment, quand tu veux des All-Stars, alors les gens, ils me parlent, je disais des trucs, mais encore une fois, moi je suis dans l'échange. Mais quand je disais des trucs, on parle du trade de Melo, les mecs, ils sont trop mat. Mais au bout d'un moment, enfin, tu vois, c'est aujourd'hui, du coup, j'ai sous les yeux, parce que tu vois, je les avais notés tout à l'heure, les extérieurs qu'on a. On a 8 extérieurs, donc on en a trop pour 3 postes. Et on n'arrive pas à faire jouer tout le monde. Si on avait fait le trade de Mitchell, on aurait un putain de leader qu'on va faire jouer limite 40 minutes, tu vois, dans l'idée avec Thibodeau. Et voilà, et derrière, on a eu 2-3 rotations. Et c'est plus léger peut-être, mais au moins, c'est plus logique.
Un joueur fort, un joueur impactant, et comme tu dis, franchise player, un joueur qui est au-dessus du lot. Là, aujourd'hui, on a un trio qui est plus équilibré, on va dire. Et tout ça pour dire que Thibodeau, est-ce qu'il a l'effectif qui lui permet de jouer de la défense? Pas vraiment.
Moi, je pense pas.
Et du coup, il a ajusté, et entre autres, c'est Van qu'on a payé les pots cassés. Après, là, on a eu Grimes, eu Reddish. Va falloir voir qui s'installe réellement comme étant le starter dans les deux. Mais bon.
Justement, au vu de la situation actuelle, donc franchement, là, vous avez été vraiment très éloquent là, sur le cas de Tom Thibodeau et s'il est encore impactant ou pas. Malgré tout, il y a quand même quelques joueurs qui arrivent un petit peu à profiter des hésitations. Quand même quelques motifs d'espoir hein, dans cet effectif malgré tout. Je sais pas moi, t'évoquais beaucoup sur Quentin Grimes qui a intégré le 5, qui pour moi fait partie des grands gagnants de Fournier qui se retrouve mis au placard. Quentin Grimes qui s'installe, on a évoqué Cam Reddish qui vraiment a été...
Reddish c'est cool parce qu'il est enfin plus blessé, donc il peut montrer ce qu'il sait faire, c'est pas que scorer, on l'a vu, hein, le mec fait les minima dans la défense et il prend son poste de starter sur ça. Et d'ailleurs, il tire pas énormément. Hein. Quand on le voit dans le roster, à la base, c'est plutôt un scoreur. Et comme il est derrière les trois qu'on a cités précédemment, il s'attelle plus à faire ses tâches défensives, on va dire. Mais il est malin, il gratte ses minutes. Et je pense que c'est comme ça que tu t'installes dans une rotation. Grimes, il est de retour. On le connaissait déjà, donc ça, c'est assez cool. Nos motifs d'espoir, ils sont là. Hein. Tout n'est pas acheté. Hein. Quand tu vois Grimes, Reddish ou même Kukler, hein, c'est très jeune. Topin aussi, qu'on peut citer. Sims, qui commence à jouer parce que...
Il a monté belles choses.
Ouais, on a des bons jeunes, tu vois. On a des bons jeunes. Donc après aussi, c'est toujours pareil, c'est réussir à les faire jouer, etc. Mais c'est sûr que si tu veux une note d'espoir sur tout ça, c'est que derrière, on a des jeunes qui sont là. Quand ils ont des des minutes, ils les mettent à profit et c'est vachement cool. Maintenant, une saison, ça se fera pas sur les jeunes. Et j'ai envie de redonner la main à Abdoul. Et quand tu penses de Fournier, c'est que tu vois, c'est des mecs qui peuvent faire tenir la baraque, quoi.
Ouais, ben voilà. Moi, j'aurais aimé que mes motifs d'espoir viennent du 5. Je le cache pas. Après,
mais ils peuvent justement avec un RJ qui va être un peu plus efficace. Ça peut être une marge de progression en fait, parce qu'il a pas été si efficace que ça sur ce début. Donc, et pour autant, on a un bilan équilibré. Et pour autant, il tourne à 18 points. Donc voilà, si lui arrive à être plus efficace dans ses réalisations, sans forcément prendre plus de shoot, hein, c'est les pourcentages qui sont pas terribles en ce moment. Mm-hmm. Voilà, ça peut être mieux. On va avoir un starting five qui va être plus équilibré en apportant de la défense. Donc ça, voilà, on va pas non peut-être devenir une équipe défensive élite non plus, hein, pour autant. Hein, voilà, faut pas attendre des mots émerveillés.
On n'est pas équipé.
Parce qu'on n'est pas équipé pour. Mais voilà, si on est un peu plus présent sur la défense extérieure, parce que qu'est-ce qu'on s'en prend des valises à 3 points, avec du Grimes, avec du Reddish, eh ben voilà, ça peut tourner plus à notre avantage. Donc non, voilà. C'est un premier quart de saison. Il y a des motifs de satisfaction pour certains joueurs, pour le bilan qui est équilibré. Hein. On a l'impression, en fait, avec ce 9-9, qu'on est plutôt à un bilan de 3, je sais pas combien, voilà, de rien avoir gagné. Non, faut pas voir tout noir non plus. Mais après, sur les jeunes, bah, c'est la seconde unit. Il y a eu quand même quelques irrégularités. Hein. Moi, Quickley, il y a des soirs, il passe à travers. C'est dommage parce qu'on attend du scoring. Je pense qu'il se cherche entre son rôle de playmaker, son rôle de scoreur.
Il y a ça, il y a de ça, il cogite beaucoup et je trouve que ça impacte sur ses choix en fait.
Et même Obi, on en a parlé très succinctement. Il y a un moment, il était très bon, voilà, sur même des laps de temps assez courts, hein, parce que forcément, il est barré par Randle. Donc là, on aimerait voir un peu plus, même si cette saison, on voit les deux jouer ensemble, qu'on ne voyait pas avant. Il y a un peu plus de raquettes Topin-Randle par séquence, des séquences un peu plus longues. Voilà, donc on s'est cherché aussi sur le poste de pivot. Hein. Mitch qui n'est pas si rayonnant que ça, qui a été blessé. Art Einstein qui fait des choses, mais qui n'a pas les mêmes aptitudes en termes de rim protecteur. Donc, ouais, Et Sims qui montre de belles choses, même si c'est jeune, même si ça prend des fautes et tout. Bon, faut le laisser mûrir aussi, hein, c'est normal. Il est tout jeune, il est sophomore, c'est un pivot. Mais très intéressant, très intéressant. Limite, il y a question aussi sur l'ordre, la rotation, la hiérarchie au poste 5. Hein. J'avoue, aujourd'hui, dire c'est lui le pivot titulaire parce qu'il est devant les autres, je sais pas dire qui de ces trois-là est devant les autres. Donc, on a deux profils qui sont assez similaires entre Sims et Mitch Robinson et un profil différent avec Hartenstein. Ça dépend des match-up.
Il y a un truc qui met en lumière ce que tu dis, c'est qu'en l'absence de Mitch Robinson sur blessure, l'équipe ne s'est pas écroulée. Quoi.
Oui.
Donc, évidemment, moi, ça fait que renforcer le fait que, oui, pour moi, Mitch n'est pas quelqu'un d'imboulonnable. Et quand j'évoquais le fait qu'il y a peut-être 3-4 postes qui sont réellement, on va dire, verrouillés au niveau de notre starting five, pour moi, Mitch n'en fait pas partie, en fait. Hein, très clairement.
C'est sujet à réflexion, quoi. C'est sujet à réflexion.
Parce qu'on en revient, les trois verrouillés, c'est les trois gauchers.
Barrett et... Et voilà.
Est-ce que tu rajoutes un quatrième gaucher avec Hartenstein? Bon.
Non, on parlait d'équilibre en tout début de podcast, et moi, pour moi, l'équilibre, c'est plus la raquette. Tu t'en parlais quand il n'était pas là, Robinson, c'est porte ouverte. Moi, je le mets quand même à aujourd'hui, pas une grande tête devant, mais je le mets quand même dans mes titus par rapport à l'équipe de. Je pars du principe que si t'es avec Rondon, on en a parlé, tu sais, dans l'attitude, il va vite lâcher les coupes, il va pas les suivre, etc. Je préfère quand même avoir Robinson que Hartenstein en second rideau. Tu vois, c'est juste de la logique d'équilibre.
Même en dissuasion, plus cet adversaire.
Bah oui. Oui, c'est raisonné en termes de doublette, en fait, de complémentarité
au niveau
des postes.
Et qui va pouvoir couvrir Tu parlais aussi à 30 secondes du duo avec Topin. Je pense que s'il ne le fait pas, Randle Topin, c'est par crainte que ça soit trop porte ouverte, tu vois, un peu dans l'attitude et dans le manque de dureté que tu vas mettre dans ta défense, etc.
Bah, il a dû le faire par défaut, c'est pour ça qu'on l'a vu sur quelques séquences. Quoi. Il l'a fait parce que Mitch était blessé. Quoi. Non,
mais il a été très clair, il a dit grosso modo, en fin d'année dernière, il a dit grosso modo, on le verrait jamais parce que lui, il veut pas. Et finalement, cette année, il le fait. Mais comme dit Lolo, c'est parce qu'il est obligé par la force des choses, des rotations, de le faire un peu plus. Et ça n'a pas été catastrophique quand il l'a fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que sur des choix, parce que c'est un coach un peu à l'ancienne, Tibbs, sur des choix où il est très arrêté, etc., et c'est comme ça, ce ne sera pas autrement, la force des choses lui a montré que c'était peut-être possible. Et des fois, tu testes des combinaisons par hasard. Et ça crée des choses.
Mais dans ses équipes passées, il a eu ce rôle de 5 protecteur, quoi. Donc, ouais. Ça a fonctionné et t'essayes de le retrouver. Alors bon, Mitch Robinson, c'est pas un Joakim Noah, hein, clairement. Mais...
Non, mais après, ce qui doit le frustrer, c'est que s'il pouvait avoir des mecs qui étaient un peu plus locker sur les extérieurs et qui forcent les mecs à pénétrer en étant très, très agressif et très haut, ça te ramène vers ton Noah à l'époque, ça te ramène vers ton Mitch Robinson aujourd'hui. Et il a pas ça. Quelque part, sur nos extérieurs, on a plus de Bullock, tu vois, qui vont faire le sale boulot, ouais. etc. Donc ça doit être aussi un petit peu dur pour Tibbs. Je suis pas son plus grand défenseur, mais pour autant, si on veut vraiment être objectif et être neutre sur ce qu'il a et ce qu'il fait, c'est que pour moi, il a pas les outils comme sur la première année où il arrive. Et c'est, tu vois, même un mec qui est devenu un journeyman et qu'on voit plus trop aujourd'hui, Payton, c'est pas un super meneur, c'était pas un crack. Et par contre, c'est
pas
forcément te prendre haut, forcer les mecs à pénétrer, etc. Ouais. On avait une alchimie quand on finit quatrième où l'équipe, en fait, tout le monde a son rôle. Ça défend fort. Offensivement, les balles, c'est pour Randle. Les scores sont pas très hauts, mais on prend les matchs. Et voilà, c'était plus logique. Pour moi, cet effectif-là était beaucoup plus logique autour de Thibodeau.
Ouais.
Voilà.
Mais le front office a décidé d'apporter de l'attaque et voilà.
Et en même temps, c'est ce qu'on demandait. C'est qu'on disait, bah oui, on était un peu court en playoff parce que Randle était.
C'est ça, parce qu'on a vu les limites du jeu avec un Randle qui était pris et qui, du coup, a pataugé. Il y avait pas
toutes les difficultés d'une construction, d'une construction d'effectifs où il faut être très bon. Hein, parce que des fois, tu lâches un mec. Tu vois, un petit aparté, par exemple, les Warriors peinent un peu, ils ont lâché Gary Payton, ils ont fait des choix. Aujourd'hui, ils bégayent peut-être un peu, tu vois, sur l'époque, c'était ça, ils ont plus autoporteur, ils ont plus Gary Payton. Tu vois, c'est une alchimie, c'est vraiment un entre-deux. Des fois, tu veux corriger quelque chose pour t'apporter, mais en fait, ce que tu essaies de corriger, du coup, tu deviens une faiblesse encore plus.
Tu dégrades par ailleurs. Ouais.
Et voilà, et après, du coup, ça va en sucette.
Maintenant, les gars, je vous pose la question. En l'état, avec une visu sur 18 matchs maintenant, à l'heure où on enregistre, est-ce que vous sentez les Knicks toujours armés pour potentiellement choper la place de play-in qu'on s'était tous accordé en début de saison, les gars?
Play-off, okay. Il a dit à tout le play-off.
Merci. Oui, mais attends, on peut passer dans le play-in pour atteindre les play-offs derrière. Hein. C'est pas
impossible. Abdoul, sors-moi ta boule de cristal. Sors-moi ta boule de cristal.
Écoute, si tu veux te fier à mon marabout,
ouais.
Moi, je te le dis. Les playoffs, on les a.
On les a, mais avec le matos actuel. Ou est-ce que ça va nécessiter quelques menus changements?
Il va y avoir des ajustements. Ça, c'est clair. Comme je disais d'ailleurs, il y a beaucoup trop de pression. Il y a vraiment beaucoup trop de pression sur la tête de Thibodeau. Il va ajuster. Et je crois qu'il est suffisamment intelligent pour trouver la solution. Je mise sur lui. L'équipe, elle est fiable. On a ce qu'il faut en termes de d'intensité, de joueurs, techniques, etc. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut sur le papier. Maintenant, la problématique, c'est les équipes en face. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de ceux qui sont derrière nous. Les mecs, ils vont pas rester derrière nous très longtemps. Donc, ils vont se battre pour revenir devant. Est-ce qu'on a les moyens de lutter et de préserver cette position-là de 7-8 jusqu'au mois d'avril? Je sais pas. Mais honnêtement, j'ai envie d'y croire. Je me dis, les gars comme Barrett vont ajuster leur shoot et ça va finir par rentrer. Parce que si on le fait travailler, c'est pas pour rien. Randle, il va se recadrer, il va changer son attitude. Et il va devoir, là, maintenant, être positif du début jusqu'à la fin. Ça a un gros impact sur le jeu, ça. Hein, et sur les
autres. Évidemment.
Et sur ses coéquipiers.
Et sur l'équipe. Eh oui, évidemment.
Faut pas le négliger, ça. Hein. Et ouais. Le Brunson, maintenant qu'il a montré qu'il était capable de prendre le ballon et de savoir quoi en faire, est-ce qu'il va durer longtemps dans ce rôle? Voilà. Si on arrive au mois de décembre, si on passe le mois de décembre avec cette combinaison-là, moi, je pense sérieusement qu'on peut miser sur des play-ins, ça, c'est sûr. Et j'ai espoir sur les play-offs. Voilà.
Ok. Est-ce que tu restes sur les 42 matchs? Sur les 42 victoires, pardon.
Ouais. Je
n'a pas tout dit quand même. Au niveau sport, on n'y est pas, quoi.
les gars, on a noté. Non. Et même de tête, t'avais dit 43, je crois, quoi, le précis. Il faudra qu'on sorte les bandes.
Non, mais on a pas vraiment le choix. 42, 43. Honnêtement, moi, je vais te dire, avec ce que je viens de te dire précédemment, là, c'est du 40 minimum, quoi.
Ouais.
45 minimum. Sinon, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'on a fait jusque-là, ça n'a aucun sens. On peut pas, pendant 3 à 4 ans, construire une équipe et puis être encore là en train de se dire, est-ce qu'on va peut-être faire les play-in? Non, mais faut arrêter. Là, aujourd'hui, les mecs, il faut qu'ils soient beaucoup plus ambitieux que ça. Donc, t'as des joueurs qui ont un fort potentiel. On a drafté, on a mis de l'argent sur un gars comme Brunson. personne n'y croyait, enfin un bon nombre n'y croyait pas, et le mec il a montré qu'il valait son pesant d'or, aujourd'hui on cherche les playoffs, point barre. Donc minimum, c'est 45, minimum.
Je suis d'accord avec ton envie, mais après, il y a la réalité du terrain. L'année dernière, on ne fait pas les playoffs, tu vois. Mais on ne fait même pas les play-ins, je veux dire. On est vraiment, tu vois.
Ah ouais, on a la place du con, mais la place bien calée. Hein. Je veux dire, il n'y avait même pas d'espoir, quoi.
Pour moi, il y a un entre-deux entre la place de quatrième et la place hors play-in, tu vois, la place du con. Ouais. Il y a un entre-deux. Ouais. Voilà,
on s'est foiré. Hein. L'an dernier, on s'est foiré. On avait tous débuté l'année en se disant c'est bon d'être belle équipe. Là, surtout qu'on sortait du.
Walker, voilà, Fournier, etc. On se dit,
bing bang.
C'était fou ce début de saison. Et puis on a vite déchanté. Mais il y a eu un problème. Il y a eu un problème de d'équilibre. Il y a eu un problème de. Je sais pas, de mental. Aujourd'hui, on a rééquilibré un peu les choses. On a mis des gars là où il fallait les mettre. On a un mec comme Brunson qui peut pallier un petit peu aux faiblesses qu'avait Rose, parce que Rose, physiquement, il a un souci. Il vieillit et puis il peut pas. On peut pas lui demander d'être aussi intense qu'il était. Là, maintenant, on a des joueurs qui sont capables de le faire. On a aujourd'hui, pour moi, un potentiel bien plus sérieux pour atteindre les playoffs.
Oui. Enfin, j'aime ton optimisme et je le retrouve aussi, je le partage. Après, moi, si on termine 7 ou 8, ça me va. Hein. Et 7 ou 8, c'est peut-être dans les ranges de 40 et quelques victoires, 45. 45, ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas, allons-y.
Ouais, ça me paraît beaucoup.
J'étais plutôt aussi. Sur... Ça, c'est ma côte haute, toi, c'est ta côte basse. On n'a pas les mêmes objectifs. Mais de toute façon, oui, il y a de la concurrence et ça va être compliqué, il va falloir batailler. Et c'est en ça où les matchs contre Toronto, Chicago, Washington, tout ça, il va falloir se montrer avec de l'envie, parce que si on veut atteindre ces playoffs, il faut jouer ces matchs et les gagner, quoi. Donc,
c'est ça, faut rien laisser passer.
Donc là, autant on a pris les matchs qu'on devait prendre, on a perdu d'autres. Bon, contre les adversaires directs, ouais. il faudra se montrer justement plus fort que quoi.
Et du coup, Willy, pour conclure, juste ta petite vision là sur le moyen terme et voir sur cette fin de saison potentielle.
Ah bah moi, j'aimerais bien que ce soit comme Abdul, mais j'y crois pas du tout. Je pense pas qu'on puisse être 4-6. J'y crois pas. J'aimerais beaucoup, hein, mais je pense qu'il y a trop. On est vraiment, ça y est, on est lancé post-Covid, de l'année où on fait des trucs. Faut le rappeler aussi, hein, c'est des saisons un peu bizarres, etc. Là, on retrouve plus une vraie NBA homogène où ça se tape. Regarde, tout le monde parlait, ça va tanker, Wembanyama, blablabla. Quand je vois Indiana, ils sont quatrième. Pour moi, c'est parlant. C'est sur Indiana, sont quatrième. Pour moi, ils vont glisser au fil de la saison, tu vois, ça va se réguler. Ouais. Mais si tu regardes à côté, les autres, pour autant, on parlait des confrontations directes, du Miami, du Chicago, du Brooklyn, du Toronto, du Philadelphia, du Atlanta, tout ça, on va se taper avec ça, tu vois.
Ouais, et ça va pas être cadeau.
J'aimerais te dire, on va être sixième, Abdoul, mais on peut très bien être onzième, j'ai pas envie de le dire, mais on peut très bien être dixième, tu vois. Moi, je rejoins Joanie, hein, je suis content si on fait 7-8, même si on fait un play-in. Alors après, par contre, si on fait le play-in, j'ai envie qu'on le gagne, parce que je veux une série. La vérité pour moi, c'est ce que j'aimerais cette année au moins, c'est qu'on ait la chance d'avoir une série de play-off. Voilà. Donc, qu'on soit dixième, qu'on tape le play-in et qu'on arrive à accrocher la série de play-off, moi, ça me va, hein, je signe. Hein. Maintenant, si on peut être quatrième, c'est encore mieux. Mais je pense que la concurrence est rude. Il y a beaucoup de franchises. Ouais. Tu vois, tu mets un petit Toronto, ça paye pas de mine. Mais mon gars, ça joue et ça va être régulier, je pense, sur la saison. Et on va pas les décrocher comme ça en claquant des doigts. Donc, on verra. Moi, j'ai de l'espoir. Sauf que ce qui est cool, c'est qu'on est en 9-9. Donc, encore une fois, je répète ma vision, mais c'est le bon wagon. Quand je dis bon wagon, je préférais être en 10-6. C'est une évidence, comme tout le monde.
On n'est pas décroché.
Mais on n'est pas décroché. Et là où je suis d'accord sur le tournant, c'est un peu ce qui va être décembre, janvier, par là. Il faut absolument qu'on soit encore dans
le
bon wagon, bien placé. Et je l'ai dit en début de podcast, mais à un moment, il faudra faire une série. Il faut faire ces strikes où tu enchaînes tes victoires. Et je veux pas forcément dire victoire d'affilée, mais tu fais un 7-3 dans tes deux semaines, tu vois, un truc où tu vois, tu commences vraiment à prendre l'ascendant dans ton record, tu deviens de plus en plus positif et là tu te places et en plus comme il y a beaucoup de confrontations directes, parce que les équipes que j'ai citées tout à l'heure, c'est la conférence Est, donc on va la taper 4 fois, 3 peut-être pour certains, mais souvent 4 fois, c'est là où il faut absolument prendre l'avantage sur ces matchs-là. Ça, c'est trop important.
Écoute, hein, moi pour essayer de faire le lien entre vos différents propos, je reste sur le fait que les Knicks pour l'état, ça va pas aller plus loin que les play-in. Ça reste sur la position que j'avais moi en début de saison, et que si vraiment, et pour pouvoir avoir le même optimisme qu'Abdoul, c'est si on veut vraiment rentrer en playoff directement, pour moi ça va passer par un petit aménagement.
Un trade
ou quelque chose, mais va falloir modifier cet effectif-là.
Ne serait-ce que la situation d'Evan, quoi. La situation d'Evan qui est compliquée pour lui et qui apporte rien, du coup.
Et qui impacte sur l'alchimie du groupe. Donc pour moi, si vraiment, et je pense et j'ose espérer que ce coup-là n'est pas innocent, qu'il y a une réflexion malgré tout derrière et surtout une stratégie, quoi. Donc pour moi, en l'état, ça va pas plus haut que le play-in et voilà, il faut qu'il y ait cette petite étincelle qui viendra du management pour redonner un élan à cette équipe-là.
Moi, ce qui me fait peur dans ce que tu parles, quand tu parles de tu emploies le mot stratégie, c'est que pour moi, c'est jamais été une bonne stratégie de bencher totalement un mec avec l'idée de le transpirer parce que sa valeur, elle vient nulle
de son jeu.
Walker, on n'a jamais pu le transpirer, ça finit par être benché au total DNP, ce que tu veux, pour au final, tu vois, jusqu'à la fin de saison, on l'a plus jamais revu. Tu t'attireras pas un partenaire en se disant ah ouais, c'est vrai que lui, peut-être qu'il shoot, il va peut-être nous être utile. Si le mec il est pas sur le terrain, tu vas être à zéro.
Il vaut plus rien.
Bah ouais, en termes de valeur et tout, c'est trop dur après.
Oh, les GM en face savent ce qu'il peut apporter. Là, effectivement, c'est pas. Ouais. Tu fais jouer 5-10 minutes, je suis pas sûr que sa cote elle augmente en plus, quoi.
Parce qu'un joueur qui joue, potentiellement, il apporte quelque chose. Un joueur qui joue pas, tu sais pas si tu vas pouvoir le faire rentrer dans ton système de jeu, quoi. Parce qu'il
C'est un joueur qui est pas forcément évident à faire rentrer parce que, mais limite, tu cherches un shooter, tu sais qu'il peut shooter. Par contre, bon, il a un salaire qui est pas forcément évident.
C'est conséquent.
Ce que je veux juste dire, c'est que quand il a fait son match contre OKC à 20 minutes où il fait à 0 sur 5, là, tu le mets pas plus à son avantage. Donc là, tu le préserves, t'évites qu'il se blesse. Bon, après, c'est dur pour lui, je pense. Enfin, voilà, je le disais tout à l'heure vis-à-vis de Juju, c'est des mecs, c'est des hommes, quoi. Enfin, t'as envie de jouer, t'es un pro, t'es pas venu pour faire banquette, quoi, clairement pas. Donc, même si t'apprécies la vie new-yorkaise, même si ta femme, elle est enceinte et que t'attends juste qu'elle accouche, enfin, il y a un moment, t'as envie de jouer, quoi. Donc, tout simplement, mais en soi, les GM, s'ils ont envie d'Evan Fournier, les GM des autres franchises, ils savent ce qu'il peut apporter, quoi. Et c'est pas là de le voir par quelques bouts de match. Que tu vas te dire oh bah dis donc il est vachement en forme, vas-y faut qu'on se rue dessus. Non, ont envie de faire un trade, ils savent déjà.
Ils savent, ça je suis d'accord, et je parlais pas dans forcément que dans ce sens là je parlais aussi dans le sens où en fait t'es malin. Si moi je dois te vendre mon iPhone 3 et que tu l'as vu dans mon placard depuis 30 ans, et bah tu te dis ok c'est un iPhone,
tu prends,
mais voilà,
prix,
tu peux l'avoir à moins cher, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on a commencé à avoir des histoires de potentiellement les retours, c'est que on voudrait bien mets un pic avec, tu vois ce que je veux dire. Donc là c'est pas dans des franchises qui n'ont pas forcément une grande ambition.
Il y a des choix à faire, mais on va suivre tout ça, je pense que
on va suivre tout ça. En tout cas les gars, parce qu'il y a quand même une vie après le repas, comme j'aime le dire, on aura l'occasion effectivement de continuer à débattre sur le parcours d'Enix, évidemment tous les lundis sur YouTube à The Knicks Week, Joanny.
Ouais, on raconte notre vision de la semaine des Knicks, hein. Mais on est là toutes les semaines. Ouais.
Voilà, et puis pour vous rappeler que nous sommes présents également sur Twitter, on interagit beaucoup avec la communauté, sur Facebook bien évidemment, sur Instagram aussi, on développe essentiellement l'activité de notre association. D'ailleurs, j'en profite pour remercier déjà tout le monde pour avoir répondu présent à ces deux viewings en back-to-back, face au Thunder et face au Suns. Restez connectés, on essaie de vous préparer d'autres surprises sur le sujet, et évidemment on aura tout loisir sur les différentes vidéos que l'on vous propose sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas, j'en profite, je fais de l'autopromo, n'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker, à commenter, c'est évidemment ça nous donne, et à partager, parce que ça nous donne évidemment beaucoup de force. Donc et c'est de la reconnaissance vis-à-vis du travail investi, voilà. Donc
il y a de tout, il y a de l'actu, mais il y a aussi des contenus historiques. On parle de SAP, on parle de plein de trucs en fait. Elle est pas mal cette chaîne.
Exactement.
Je pense que c'est la meilleure chaîne YouTube de basket de France.
Voilà. Donc si vous êtes pas abonné, vous loupez quelque chose, les gars. Quoi.
En toute modestie, bien évidemment. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de partager ce moment avec vous. Un grand merci à Will. Donc franchement, t'as été au top sur ce podcast. podcast. Will, c'est un petit mot de la fin. On va faire le tour de table. Un petit mot de la fin.
Non, bah, toujours plaisant de partager tout ça et d'être entouré de passionnés, soit en physique ou comme là, par les réseaux. Hein. C'est toujours un kiff de pouvoir échanger, même si on n'est pas tout le temps d'accord. Mais ce qui est bien aussi, c'est de voir après, de se réécouter et de voir si Abdul aura eu raison avec son playoff direct. Et on comprendrait tous. On n'est pas des mythos. On voudrait tous qu'Abdul ait raison.
Et si Abdul avait raison, il nous donnera l'adresse de son marabout. Voilà. Et s'il n'a pas raison, ben,
évidemment,
on aura une pensée pour ce marabout.
Je le garde pour moi.
Merci beaucoup en tout cas, Will. Abdul, un petit mot pour toi.
Ben écoute, c'est toujours plein d'espoir hein, que je regarde les matchs. Et j'ai, voilà, vous l'avez compris, je suis toujours hyper positif. J'aimerais qu'il n'y ait pas de désillusions cette année. Donc on attend la première série là qui va tomber, comme l'a dit Willy. Je pense que ça va pas tarder. J'y crois pas. Ils nous ont entendus, ils vont écouter le podcast et voilà, et les mecs ils vont se donner. Donc voilà, bah écoutez, grand plaisir de partager ce moment avec vous comme d'hab. T'as parlé des viewings, t'as parlé des différentes rencontres. Un petit clin d'œil pour les voyages. Moi je voudrais remercier déjà tous ceux de votre présence pour les voyages. On va vous accompagner, on sera là. Il y a du LA, il y a du New York, ça va être terrible. Donc j'ai déjà hâte de revoir un peu tout le monde dans ces circonstances. Et donc voilà, donc d'ici là, vive la win, vive les New York Knicks.
Vive la win et pas la weed, mais mais oui, on a les voyages qui vont arriver et on va aller voir une équipe playoffable en plus, non d'un chien. Donc ouais. Effectivement, la saison des événements bas sont pleins, les viewings et tout, c'est cool. Et oui, sur les réseaux, bah il y a toujours plein d'avis, il y a des trolls, il y a des haters, il y a des groupies, il y a un peu de tout, mais c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est sympa. Et cette communauté, bah elle est très active, elle est très passionnée et elle a envie tout simplement que l'équipe gagne, quoi, même si certains préfèrent voir un petit Victor à New York. Bon, je pense que ça sera pas pour cette fois, ou alors ça sera dans une équipe visiteur. Mais voilà, ouais, non, on a une belle équipe, on a un bon début de saison avec des hauts et des bas, mais c'est que de l'émotion tout ça, c'est que de l'émotion. Donc, et KNF est toujours au rendez-vous pour vivre et partager cette émotion à plusieurs.
Exactement. Bah écoute, je crois que vous avez tout dit. Moi, j'en profite évidemment pour faire un gros big up à tous nos adhérents qui répondent présents, soit directement sur nos événements, soit par des petits messages interposés, et c'est ça donne vraiment tellement de force et surtout c'est toujours un plaisir de voir cette association continuer à vivre. On vit les choses ensemble avec beaucoup de passion. J'ai pas évoqué le blog notamment, où il y a des articles très intéressants sur ce blog que vous pouvez trouver sur nixnationfrance.com. N'hésitez pas à vous y rendre. La bise à Choubix également, un grand contributeur de ce blog. Et en tout cas, j'en profite pour dire un gros bisou à tous. Je vous donne rendez-vous bientôt. C'est toujours un plaisir de partager ce podcast avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez les Nix, on est toujours ensemble. Nix un jour, Nix toujours. Ciao l'équipe.
Ciao.
Bye bye.
Ciao, ciao.
I always will be a Nick. Always will be a New Yorker. Thank you very much.
Hope you're ready for the next episode. Hey.